Édition spéciale, donc si vous venez de nous rejoindre, c'est François Giffrier qui est avec nous jusqu'à 18h.
Et nous parlons de ces gilets jaunes. Vous en avez peut-être un en ce moment sur les épaules. Vous conduisez, vous êtes dans la rue, vous marchez. Peut-être que vous êtes bloqué quelque part. Vous nous appelez au 3921, vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux avec le hashtag le mot dièse Europe 1. On va commencer tout de suite avec Jean-Luc Boujon qui est reporter d'Europe 1, correspondant dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Luc, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Pont-de-Beauvoisin. C'est en Savoie et c'est là qu'un drame s'est produit ce matin dès le début de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes.
Exactement, vers 10h ce matin, 40 gilets jaunes, dont beaucoup de retraités étaient en train de bloquer l'accès d'une station-service. Une femme est arrivée avec son 4x4, elle emmenait son fils chez le médecin. Elle n'a pas voulu attendre, elle a tenté de forcer le barrage. Et là, tout s'est envenimé, le ton est monté, raconte Philippe, un gilet jaune de 64 ans.
Ça s'est énervé, elle a accéléré, les gens ont commencé à se dire « Oh, tu vas pas passer !» Parce que puisqu'elle accélérait, les gens ont secoué de la voiture. Elle est passée en force, hein. Elle est passée en force sur cette dame, justement.
Elle lui a roulé dessus, quasiment.
J'ai vu la voiture se lever, moi. Les roues sont levées, hein, mais pas dessous. Qui a commencé à accélérer, qui a commencé à taper, j'en sais rien, moi. Mais je veux dire, effectivement, quand on vous fonce dessus, vous faites quoi? Il y avait une ambulancière qui était avec nous, qui lui a donné les premiers soins, qui a dit « Oh là là, c'est mal barré, quoi. » Les secours sont arrivés, puis on a vite appris que c'était fini, quoi.
C'est terrible.
Carrément, oui. Donc cette femme, elle est revenue après avec son gosse dans les bras. Je m'excuse, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu. Il y a eu un coup de panique, quoi.
Alors, la conductrice est à l'heure qu'il est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. La victime, elle, était une retraitée de 63 ans qui, selon ses collègues gilets jaunes, était là aujourd'hui pour dire aux gouvernants ses difficultés, sa petite retraite et l'obligation qu'elle avait encore à son âge de reprendre un petit boulot pour s'en sortir. Tout le monde ici est donc encore sous le choc de ce décès dans ces circonstances terribles. Mais les protestataires ont décidé de maintenir leur barrage filtrant malgré le drame, explique Patricia.
Vous croyez que nous, on est heureux d'être là, comme ça, là, sous la pluie? On vient pour notre bonheur? Non, on vient pour des choses réelles. On a besoin de manifester, de se faire entendre.
Vous dites pas, ça vaut pas un décès?
Si, on peut le dire, mais c'est les convictions, ça continue. On est obligé, on a besoin de se faire entendre.
Alors le barrage donc continue pour l'instant, hein. Les gilets jaunes sont même un peu plus nombreux que ce matin. En attendant demain la venue d'une des filles de la victime qui elle aussi était présente sur un barrage de gilets jaunes à Cavaillon dans le Vaucluse et qui a décidé de poursuivre son action jusqu'à ce soir en hommage au combat de sa maman.
Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1. Vous êtes envoyé spécial à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Il s'est donc passé ce tragique accident, cette personne qui est donc morte percutée ce matin. Au total, hein, depuis ce matin, partout en France, il y a eu 47 blessés dont 3 graves. C'était le bilan que dressait à la mi-journée le ministère de l'Intérieur. 47 blessés dont 3 graves. Les forces de l'ordre qui sont déployées partout sur le territoire ont procédé évidemment à des interpellations, 24 personnes interpellées pour des refus d'obtempérer, pour des menaces, pour des barrages qui ont été forcés, pour de la rébellion. Il y a eu au total 17 gardes à vue. C'est un bilan qui sans doute a évolué depuis la mi-journée. On vous tiendra au courant évidemment dès que cela aura changé. Au total, en France, 2000 rassemblements ont été dénombrés par les forces de l'ordre. 124 000 personnes. Là aussi, c'était le décompte du ministère de l'Intérieur. On va rejoindre Victor Dolande. Victor, vous êtes reporter d'Europe 1. Vous êtes en ce moment sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Alors, c'était une cible évidemment symbolique des gilets jaunes qui voulaient même marcher sur l'Élysée qui était quelques dizaines de mètres. Où en sont les gilets jaunes autour de vous sur cette avenue, Victor Dolande?
Pour l'instant, ils sont plusieurs centaines au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Alors, ils alternent entre barrage filtrant et blocage complet de la circulation. Les forces de l'ordre ne sont jamais très loin. Au début, les gilets jaunes voulaient bien évidemment rallier l'Élysée, mais ils ont très vite compris que ça ne serait pas possible. Du coup, ils s'organisent un peu comme ils peuvent. Dans l'ensemble, à l'exception de brèves échauffourées, le rassemblement se passe dans le calme. Mais il y a quand même une petite déception chez les gilets jaunes parisiens. Monique est retraitée et elle déplore la faible mobilisation.
Sur Paris, elle aurait certainement pu être plus importante. Je crois qu'en province, elle l'est beaucoup quand même, d'après ce qu'on a entendu. Mais il y a beaucoup de gens qui sont concernés et malheureusement, beaucoup ne manifestent pas ce mécontentement.
Françoise, elle, discute avec des automobilistes. Elle leur explique l'importance de ce mouvement et elle demande aux Français de soutenir les gilets jaunes.
Si les gens ne peuvent pas venir manifester, mais qu'ils sont solidaires des Français, mais qu'ils accrochent tous à leurs fenêtres comme ils l'ont fait lors du Mondial, un gilet jaune. Ils ont su afficher leur drapeau, et ben qu'ils affichent leur gilet jaune.
Alors j'ai rencontré de nombreux manifestants, ils insistent tous sur le pacifisme, sur l'importance du pacifisme de leur lutte, et tous promettent déjà de se retrouver à nouveau dans la rue dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup Victor. Victor Dolande en direct de l'avenue des Champs-Élysées à Paris. N'hésitez pas, Victor, à nous rappeler s'il se passe quelque chose sur les champs. N'hésitez pas, vous tous qui nous écoutez, à nous appeler. Vous connaissez le numéro, c'est 4 chiffres, c'est très simple. 39-21, ça coûte 50 centimes d'euros la minute. Vous nous appelez, on vous prend en direct à l'antenne. Vous nous expliquez ce que vous pensez de ce mouvement. Si vous aussi vous êtes en colère, si au contraire vous êtes bloqué et donc en colère contre les Gilets jaunes. Tout ça existe aujourd'hui. C'est le 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On attend vos appels. En attendant, quelqu'un aujourd'hui a félicité, en tout cas participé, encouragé les Gilets jaunes à sa façon. C'est Laurent Wauquiez, le président du Parti Les Républicains. Il s'est exprimé tout à l'heure en début d'après-midi.
C'est souvent des gens qui travaillent, qui ont travaillé toute leur vie, qui bossent pendant toute la semaine et qui ne prennent pas cette journée de gaieté de cœur. C'est aujourd'hui des gens qui sont assommés de taxes et qui ne s'en sortent plus. Et plus que ça, je pense que c'est des gens qui ont l'impression de ne pas être respectés et écoutés. Aujourd'hui, ce n'est pas juste la taxation sur le gasoil, c'est tout. C'est la CSG, c'est l'augmentation de la fiscalité sur l'épargne, c'est les contrôles techniques, c'est tout ça. Et les gens, leur sentiment, c'est que c'est toujours plus de taxes et toujours plus pour les mêmes. Ce qui se passe est injuste, parce que ça touche les classes moyennes. Ça touche ceux qui sont au milieu et qui n'ont pas d'autre choix. J'espère de tout cœur que le président de la République va enfin les entendre, qu'il va comprendre ses erreurs et surtout qu'il les corrigera en annulant ces hausses de taxes. Aujourd'hui, c'est trop. Et il faut de toute urgence que ça change. Ici, il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des gens qui sont du centre, il y a des gens de partout. C'est pas notre sujet. C'est un mouvement des Français directement qui doit pas être récupéré, mais qui a le droit d'avoir le soutien de tous les élus.
Laurent Wauquiez, le président du Parti Les Républicains qui s'exprimait tout à l'heure. Laurent Wauquiez qui dit qu'il y a des gens de droite, des gens de gauche. C'est peut-être votre cas, vous êtes peut-être mobilisé. Quelle que soit votre couleur politique, on vous attend. Le bleu européen est ouvert à toutes les sensibilités. On va marquer une courte pause dans cette édition spéciale. Première pause avant de lancer la conversation avec vous et avec nos grandes voix, Charles Villeneuve et Michel Cotta qui sont avec nous en direct pour nous accompagner cet après-midi sur Europe 1. À tout de suite.
16h10 avec vous François Geffrier, vos invités. Nous sommes en édition spéciale jusqu'à 18h en raison du rassemblement de la mobilisation des Gilets jaunes. 39-21, vous l'avez dit, le standard d'Europe 1. Racontez-nous cette journée de mobilisation. Exprimez votre colère. Vous pouvez aussi publier vos photos et vos vidéos avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Absolument. On attend vos témoignages. On attend que vous nous sollicitiez, que vous ayez envie de passer à l'antenne pour qu'on vous prenne en direct, pour qu'on écoute ce que vous avez à nous dire sur ce mouvement. Je le rappelle, 2000 rassemblements qui ont été comptés partout en France. Si on fait le calcul, ça fait quoi? Ça en fait 20 par département en moyenne. 124 000 personnes comptabilisées par les forces de l'ordre. C'était le chiffre que donnait tout à l'heure le ministère de l'Intérieur. Toutes ces personnes qui ont mis des gilets jaunes. C'est comme ça une sorte de marée jaune. La colère noire, on pourrait le dire, des gilets jaunes aujourd'hui. On va donc en parler avec vous, nos grandes voix d'Europe 1, Charles Villeneuve et Michel Cotta. D'abord, ce chiffre que je viens de donner, 124 000 personnes, Michel Cotta, est-ce que c'est une forte mobilisation à l'échelle de ce qu'on connaît habituellement en France?
Non, ça n'est pas une forte mobilisation. Maintenant, les chiffres sont toujours sujets à caution. Donc attendons la fin de la journée pour savoir les vrais chiffres. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, il me semble, c'est que c'est une manifestation d'un nouveau genre total où les réseaux sociaux ont eu beaucoup d'importance, où ils continuent à avoir de l'importance à l'heure qu'il est, puisque les gens échangent, y compris ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord. Donc c'est une manifestation spéciale parce qu'elle est par ces biais-là et parce qu'elle est contre tous les partis quand même. Sauf, il doit y avoir évidemment des franges parmi eux d'extrémistes. Bon, ça on voit bien, on imagine bien, mais en dehors de ça, les cortèges dans les villes sont des cortèges plus spontanés que politiques, ça c'est sûr. Et même, on peut se dire que s'il y a un échec global, c'est quand même l'échec du monde politique face à ça. Et il y a en effet un demi-échec du gouvernement qui sans doute n'a pas vu venir les choses à temps. Mais ça n'est pas une intense mobilisation physique. Alors peut-être qu'il y a des tas de gens.
C'est-à-dire qu'on a déjà connu des manifestations plus grosses.
Ah on a connu des manifestations d'un million et demi à Paris, mais ça, ça.
Mais 2000 cortèges, voilà, 2000 c'est plutôt points de rassemblement, ça, qui est important. Ça c'est nouveau.
Ça c'est tout à fait nouveau. Et le fait qu'il y ait plus ou moins de monde, il y a des rencontres où il y a beaucoup de monde, comme à Bordeaux. Et puis il y a d'autres, on le voit bien sur les images. Il y a d'autres. Petit point de fixation dans lequel il y a beaucoup moins de gens. Mais c'est ça qui est important, c'est que c'est un maillage quand même, et un maillage de mécontents, et que de ce maillage-là, dans les territoires qui jusqu'à présent ont été quand même un peu sortis des préoccupations, sortis des préoccupations, ça, évidemment, ça m'entend. Je dirais que c'est plus le nombre de petits abcès de fixation qui est important que le nombre général de manifestations, de manifestants.
Charles Villeneuve, est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect spontanéité, absence des partis politiques? C'est pas eux qui mènent là, les cortèges, les 2000 rassemblements?
Oui, absolument. Ne pas être d'accord, si vous voulez, c'est nier l'évidence et c'est nier ce qui est apparu. Mais je trouve qu'il y a une double signification à ces points de blocage. Il y a en effet la signification que les corps intermédiaires n'y sont pour rien. Les corps intermédiaires, c'est-à-dire les partis politiques et les syndicats. Mmh. Et en cela, si vous voulez, curieusement, presque de, et c'est le paradoxe de cette affaire, c'est que ça rejoint le souhait du président de la République. N'oublions pas que Emmanuel Macron, durant toute sa campagne, avait marqué nettement son goût pour la disparition des corps intermédiaires. En cela, c'est une manifestation spontanée, spontanéiste, macroniste, on pourrait dire, si vous voulez, si on pousse...
La forme est macroniste contre Macron.
Voilà, contre Macron. Mais la deuxième chose, c'est que justement, la disparition des corps intermédiaires a conduit quand même à des incidents assez graves, puisqu'il y a une tuée, et puis il y a des blessés, il y a 47 blessés, dont 3, je crois, sérieusement.
Absolument.
Et à partir de là, et on voit en quoi il est nécessaire, obligatoire, de la DPO. Qu'est-ce que la DPO ?
Alors dites-nous ce que c'est que la DPO, parce que là...
La déclaration préalable obligatoire à toute manifestation. Lorsque vous allez à la mairie ou à la préfecture, vous déposez, si vous voulez, le lieu, l'heure du rassemblement, la nature de ce rassemblement, le slogan de revendication, politique ou pas, et puis aussi vous déterminez le service d'ordre, votre service d'ordre, qui va rentrer en contact avec les forces de l'ordre qui vont être désignées par le préfet et qui vont négocier, aussi bien gendarmes que policiers, qui vont négocier justement l'ordonnancement des points de blocage, le cortège. C'est fait
ça, autant... C'est professionnel. D'habitude, quoi.
Absolument,
c'est
fait autant. Tous ceux d'entre nous, étudiants, qui ont eu des responsabilités et qui ont manifesté...
Vous avez organisé des manifs, c'est ce que
moi,
vous
Moi, j'ai organisé des manifs absolument à Aix-en-Provence, d'étudiants, et j'ai été déposé, j'ai été faire...
Et donc là, ça n'a pas été
déclaration
fait.
Préalable obligatoire. C'est fait aussi pour protéger le cortège, si vous voulez. Quand la CGT organisait les grands rassemblements, le service d'ordre de la CGT, évidemment, régulait la marche du cortège, mais en même temps, les forces de l'ordre protégeaient les déplacements de ces cortèges. Et cette absence-là fait qu'il y a eu ces incidents-là. Ça, je crois qu'il faut quand même le souligner.
Parce que quand on reprend juste les chiffres, effectivement, ce matin, tout à l'heure, au ministère de l'Intérieur, on entendait l'un des responsables de cette administration dire « Sur les 2300 points anticipés ou estimés, on en a vu 2000. » Donc les forces de l'ordre avaient estimé à peu près 2300. Finalement, il y en a eu 2000. C'était peut-être pas exactement aux endroits qu'ils avaient imaginés. Donc tout ça, c'est difficile à identifier.
Pour répondre quand même à Charles Villeneuve, ça fait partie de la manifestation de ne pas se déclarer. C'est parce que, oui, quelques-uns sont déclarés parce qu'ils doivent être plus ou moins au courant.
Là, tu parles de cette manifestation du jour, oui.
Ça fait partie de la volonté...
Non, moi, je ne fais pas référence. Mais ça fait partie de cette volonté et moi, je le déplore.
Oui, là, mais on est d'accord.
C'est ce que je dis.
Puisqu'on a, quand même beaucoup de blessés,
plus ou moins
graves. Je le
déplore parce qu'une femme qui est tuée parce qu'en réalité, il n'y a pas de service d'ordre pour instaurer un canal de dégagement et de circulation, conduit à cet incident.
Il reste que pour des mouvements spontanés, se déclarer, c'est le contraire de la spontanéité. Donc c'est ça que ça veut dire, avec tous les problèmes que ça implique, et avec sans doute la façon dont les gens se disent qu'il ne faut pas trop venir spontanément dans ces réunions, parce qu'on risque toujours quelque chose.
Et l'autre conséquence que je tire, c'est qu'il y a quand même... et je pense que le président de la République et le chef du gouvernement tireront cette même conclusion, c'est qu'il y a une incompréhension quand même du gouvernement à l'égard de cette France rurale et des villes moyennes qui a besoin de sa voiture. Presque tous se déplacent et font pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour le loisir, de 30 à 40 kilomètres. Augmenter, compte tenu de l'augmentation systématique des impôts depuis un certain nombre d'années. Ça ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron. Mais ajouter à tout ce qui existe encore une taxe qui taxe justement, si vous voulez, l'essence, le diesel, alors qu'on leur a dit pendant des années que justement pour économiser, etc., taxe dite écologique, et par-dessus le marché... Après cet appel, donc par l'intermédiaire des réseaux sociaux, répondre par une batterie de mesures avant-gardiste, avant même que la manifestation ne commence.
Je rappelle, les mesures annoncées cette semaine par Édouard Philippe, notamment cette prime à la conversion qui vous incite à rendre votre vieille voiture très polluante et en acheter une, soit d'occasion, soit neuve, mais moins polluante, et on vous donne une prime de 4 000 euros à partir de janvier.
C'est ce qui a provoqué ce ras-le-bol fiscal dont on sait qu'en France, ça date de la guerre de 100 ans. Quasiment tous les 15
siècles.
Ans, il y a une manifestation contre le ras-le-bol fiscal. Ça conduit d'ailleurs en 1789, à partir de la décision de Louis XVI d'imposer tous les Français à la Révolution, puisque le 4 août 1789, on a aboli tous les privilèges, et que la Révolution et que la réunion des États généraux est l'expression du tiers-État, le tiers-État qu'on retrouve en partie aujourd'hui, notamment composé de beaucoup retraités. D'ailleurs, la tuée est une retraitée.
Nos historiens
devraient
bien se tenir là.
Le tiers-État, en question,
c'est une spécificité
pas
française, souvent.
Oui, déjà crier, effectivement.
Michel Cotta.
Mais ce qui est quand même important de noter, et ce qu'on ne peut pas ne pas noter, la France n'est pas paralysée. La France
n'est
pas paralysée, elle n'est pas bloquée.
Totalement.
Or, quand on a
entendu,
grands axes, souvent circulent au ralenti, on le redit là, pour ceux qui veulent peut-être prendre leur voiture, souvent
villes,
ça roule, mais au ralenti.
Voilà, les grandes villes ne sont pas bloquées, il n'y a pas de paralysie générale. Or, franchement,
Michel, que ce n'est pas une manifestation spontanée qui a pour origine les grandes villes. C'est
justement
la différence.
C'est la périphérie. Alors, on voit que la périphérie urbaine, en effet, est touchée. Mais enfin,
je
pense que beaucoup, au bout de 3 semaines d'annonces permanentes sur cette réunion du 17 novembre, attendez sans doute une plus grande paralysie. Voilà, peut-être
et
d'autres non.
On va continuer à l'analyser, cette paralysie et cette périphérie dont vous parliez à l'instant, Michel Cotta. On a Romarin, qui lui alors est totalement en opposition avec le mouvement des Gilets jaunes. Il nous dit sur Twitter avec le hashtag Europe 1, typiquement français, de défendre ses intérêts particuliers face à l'intérêt général. La vie est dure pour beaucoup, mais ce n'est pas en s'agrippant à ces petits acquis que les choses changeront. Alors vous êtes peut-être totalement révolté par ce que vous venez d'entendre. C'est ce que nous dit Romarin sur Twitter. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de ces Gilets jaunes? Venez nous le dire. Appelez-nous au 3921, c'est tout de suite, c'est la conversation d'Europe 1 avec vous dans cette édition spéciale.
16h21, Europe 1 en édition spéciale, jusqu'à 18h avec vous, François Geffrier, entouré de Michel Cotta et Charles Villeneuve. Alors cette émission, c'est bien sûr la vôtre, vous pouvez réagir sur cette manifestation du 17 novembre, sur ce mouvement des Gilets jaunes. Avez-vous rencontré des difficultés? Êtes-vous satisfait? 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, et puis Twitter, bien sûr, avec le hashtag Europe 1.
Et on va tout de suite écouter ce qui s'est passé dans l'un de ces cortèges, parce que ça n'est pas toujours simple, ça n'est pas toujours une manifestation bon enfant. Parfois, c'est parti un peu en dérapage, on peut le dire comme ça, sans jeu de mots. Je vous propose d'écouter cet échange qui s'était à Vannes ce matin, et c'était au micro de notre correspondant dans l'Ouest, Pierre-Baptiste Vandini. Un échange entre des gilets jaunes et des anti-gilets jaunes, si on peut dire ça comme ça.
Mais venez avec nous!
Non, parce que moi je suis pour.
Vous êtes pour quoi?
Je suis pour l'augmentation des taxes sur le gasoil.
Mais il n'y a pas que le gasoil!
Et
l'ISM,
vous êtes pour quoi? Non, mais attendez. Quand vous roulez 200 km et que vous n'avez plus de ni papillons, ni moustiques, ni quoi que ce soit qui sont sur votre pare-brise, alors qu'il y a 10 ans, il y en a encore plein. Ils sont
on
où tout
ça?
Mais non,
vous voyez que nos aïeuls se sont battus pour avoir tous les droits qu'on a maintenant, et qu'à l'heure actuelle on vit dans une dictature, et que les gens, même avec deux salaires dans une maison, on n'y arrive plus. Vous trouvez ça normal?
Oui,
on n'est pas que pour ça. Moi, je suis pour ma grand-mère qui perd au niveau de sa retraite.
À l'époque, les misérables se battaient aussi.
Nous sommes le peuple.
Mais moi aussi, je fais partie
du peuple. Vous n'êtes pas misérable, c'est le peuple qui vous soulève. J'ai des difficultés
comme tout le monde, mais c'est pas pour autant que je suis pour.
On n'est pas là que pour le carburant, moi je suis pour tout ce qui va mal en France.
M'engueulez pas, moi je suis pas Macron.
Je t'engueule pas, je t'explique. Comme dit Coluche, c'était ça, je t'explique.
Mon point de vue.
Voilà, mais ça,
je lui dis que malheureusement aujourd'hui on pollue tous, et qu'à un moment donné il y a une prise de conscience.
Voilà un échange qui était capté par le micro de Pierre-Baptiste Vandini. C'était à Vannes ce matin. Pierre-Baptiste qui nous signale aussi cet incident à Quimper, relaté par la préfecture du Finistère. À Quimper, un véhicule de manifestants a volontairement heurté deux policiers. Les deux fonctionnaires sont blessés. Le conducteur a été interpellé. Donc on voit un nouvel incident qui se produit, et ça souligne la difficulté sans doute d'encadrer ces cortèges. On vient d'en parler avec nos deux grandes voix, et cette spontanéité, cette absence de déclaration qui fait que tous les cortèges ne sont pas forcément là où on les attend. Bonjour Jean-Marc Bailleul.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure, c'est un syndicat de policiers. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette journée? Il y avait des craintes avant, là on est en plein milieu. Comment ça se passe?
Ça se passe exactement comme on l'avait prévu, à savoir que il y a des endroits où il y a eu des déclarations en préfecture et que ce qui avait été prévu comme barrage est respecté et se fait dans une ambiance bon enfant. Et puis d'autres où, agglomérés par certains perturbateurs qui viennent régler leur compte, eh bien on a le type d'échange que vous avez pu voir, on a des policiers qui se sont bousculés, puisque malheureusement certains n'ont pas compris que la liberté de chacun commençait lorsque on empêchait l'autre de pouvoir l'exprimer. Et on est bien dedans. Et c'est ça qui est un peu embarrassant pour nous, c'est que nous, on est là pour que la démocratie s'exprime et que la manifestation puisse se faire, même si elle n'est pas déclarée. Pour autant, il avait bien été dit que ça devait être des barrages ralentissants et pas des barrages bloquants.
Est-ce que les forces de l'ordre sont débordées aujourd'hui, Jean-Marc Bailleul ?
Il y a des endroits, évidemment, quand vous avez 150 ou 200 manifestants qui bloquent un péage d'autoroute et que vous avez mis ici ou là, ou des gendarmes ou des policiers pour essayer d'intervenir, on n'a pas suffisamment de force pour pouvoir être sur les 2000 points. Évidemment, notamment en zone rurale, je pense à nos amis gendarmes qui sont quelquefois 7-8 dans une brigade territoriale, ils ne peuvent pas intervenir, comme je viens de le voir, là, sur un rond-point où il y a plus de 300 personnes qui bloquent les accès, notamment au supermarché. Donc c'était pas dans cet esprit-là, a priori, que ça avait été annoncé, et on voit bien que certains veulent aller plus loin avec les débordements, voire les violences auxquelles on peut assister.
Quand on voit ce nouveau mode de mobilisation avec certes pas énormément de gens par rapport à d'autres manifestations, je rappelle les chiffres, 125 000 personnes c'était à la mi-journée, mais sur des lieux extrêmement éclatés, hein, 2000 points de rassemblement, est-ce que vous craignez que ce genre de rassemblement spontané, éclaté dans tout le territoire, se reproduise? Parce que finalement ça fonctionne, ça fait beaucoup d'audience, on le voit, puisque nous-mêmes on est en édition spéciale.
Évidemment, ça peut donner des idées, mais ça peut aussi aller vers des comportements inverses de réaction avec des gens qui veulent ici aller, même un samedi, ouvrir leur restaurant, ouvrir leur magasin, aller faire une course, emmener leurs enfants chez le médecin. Et c'est là où il faut, si le mouvement Gilets jaunes veut, à mon avis, être entendu et de façon plus large, c'est qu'à un moment donné, on doit pouvoir faire en sorte que la vie, malheureusement, continue, qu'on se mette devant les préfectures, qu'on se mette devant les hôtels des impôts, l'endroit où on prélève les taxes, éventuellement.
Tous les symboles de l'État.
Voilà, mais qu'on n'empêche pas les gens, même qui peuvent soutenir la manifestation, de pouvoir aller. On a vu l'accident mortel de ce matin, cette mère de famille
en emmenant son enfant
chez le médecin. Alors si on peut même pas emmener ses enfants chez le médecin, ça montre bien que certains n'ont pas compris on peut soutenir une manifestation sans pour autant s'arrêter de vivre. Et c'est bien ça le problème. Et bien sûr que ça nous inquiète, parce qu'on a des policiers, des gendarmes qui sont fatigués, qui sont sur le pied de guerre, si je puis dire, depuis des mois et des mois. Et même si certains peuvent soutenir le mouvement, ils appréhendent effectivement les week-ends qui viennent.
Merci beaucoup Jean-Marc Bailleul. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure. Merci d'avoir été dans cette édition spéciale d'Europe 1. Je vous l'avais promis, les auditeurs ont la parole dans cette édition spéciale. Nous sommes tout de suite avec Louis qui habite Marseille et qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Louis.
Oui, bonjour. Et écoutez, je note une chose que vos grandes voix n'ont pas vraiment l'air d'avoir noté. C'est quand même la première manif dans lequel on entend qu'une manifestante se fait tuer par quelqu'un dans la rue, même accidentellement, bien sûr.
Charles Villeneuve vous répond.
Excusez-moi, monsieur, je vous interromps. Charles Villeneuve, oui. Non seulement nous l'avons noté, mais je l'ai développé.
Sans réellement dire que c'est la première fois.
Juste, Louis, d'un mot, vous êtes-vous scandalisé par ce qui se passe et par cette réaction épidermique, quoi?
Oui, alors c'est autre chose. Moi, je prends peut-être un petit peu de recul. On nous a bassiné il y a deux ans à peu près, avec l'histoire de la COP 21 et le fait qu'il fallait changer de mode de vie et qu'il fallait vraiment changer complètement notre façon de faire. Or, à l'heure actuelle, on s'aperçoit que les gens qui ne veulent pas évidemment changer leur mode de vie pour des tas de raisons, je ne vais pas complètement leur donner tort, mais on s'aperçoit que simplement augmenter de quelques centimes le cours du gasoil ou de l'essence fout tout le monde, beaucoup de gens dans la rue. Ouais. Et ça veut dire simplement que finalement, l'enjeu de la prochaine expérience résidentielle, c'est est-ce qu'il faut qu'on reste dans la COP 21 et je le dis avec une certaine fureur, parce que finalement, les gens qui sont en train de manifester, ce sont exactement la même chose que les électeurs de Trump. Il n'y a pas de différence.
Merci.
Franchement, je suis inquiet.
Eh ben, on a compris cette inquiétude. Merci beaucoup, Louis. Cette inquiétude aussi environnementale, hein, pas seulement politique. Merci, Louis. On va continuer cette conversation avec nos grandes voix dans un instant. Et puis, dans une minute, juste après une petite pub, on va refaire un petit tour de la situation avec Marguerite Lefebvre, reporter d'Europe 1, qui est avec nous en studio. À tout de suite.
Il est 16h30, édition spéciale sur Europe 1. Vous écoutez François Geffrier jusqu'à 18h avec nous en studio de grandes voix, Charles Villeneuve, Michel Cotta. Il est question des gilets jaunes, bien sûr. Vous pouvez intervenir à l'antenne en exprimant vos sentiments, en témoignant. Vous avez peut-être quelque chose à dire sur les comportements de certains gilets jaunes. Votre colère s'exprime aussi ici au 39-21, 50 centimes la minute, ou encore avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Le hashtag Europe 1 sur Twitter avec Patrick qui nous dit « Je ne comprends pas que vous n'émettiez pas plus de réserves sur le nombre de manifestants dont la seule source est ministérielle. » Et justement, Patrick, j'ai envie de vous dire, c'est parce que il n'y a pas de structure dans ces manifestations. C'est une manifestation spontanée, un peu partout, dans 2000 lieux partout en France. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer d'un autre chiffre, parce qu'il n'y a pas d'autre chiffre que celui du gouvernement, tout simplement. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Marguerite Lefebvre. C'est un petit peu cette situation globale. Là, il est 16h31 sur Europe 1.
Oui, et vous le disiez, à ce stade, on ne dispose que d'un seul chiffre, celui donné par la place Beauvau. 124 000 personnes ont enfilé leur gilet jaune pour crier leur colère. 2000 rassemblements ont été recensés par Beauvau, dont certains ont dégénéré, notamment ce matin à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère. Une mère de famille qui accompagnait son enfant à l'hôpital a pris peur à l'approche d'un barrage. Elle a accéléré, tuant une manifestante, une femme de 63 ans qui a donc perdu la vie ce matin. Il y a ce drame et des incidents graves. 47 personnes ont été blessées, 24 ont été interpellées. Les forces de l'ordre ont dû intervenir sur 5 points de blocage importants, sur le pont de Normandie et au niveau du tunnel du Mont-Blanc, entre autres. À Dijon, la manifestation a dégénéré dans le centre-ville. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. À Quimper, tout à l'heure, un manifestant à bord d'un véhicule a volontairement heurté des deux policiers, selon la préfecture. Les deux fonctionnaires sont blessés. Le conducteur a été interpellé. À l'heure qu'il est, les blocages et les opérations escargots se poursuivent, notamment sur l'A8 à Aix-en-Provence en direction de Nice, sur l'A9 près de Perpignan en direction de Lyon, sur l'A10 à Blois, sur l'A89 à Libourne. À Paris, plusieurs centaines de manifestants sont actuellement devant le palais de l'Élysée, rue du Faubourg-Saint-Honoré, où des CRS tentent de les contenir. L'avenue des Champs-Élysées, toute proche, elle a été bloquée, elle est partiellement coupée à la circulation. Évitez donc le secteur si vous êtes au volant. Voilà pour les principales informations à ce stade. Sachez que certains préfets, notamment le préfet de l'Isère, appellent à cesser les blocages avant la tombée de la nuit pour éviter d'autres incidents.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre pour ce point très complet. On essaye tant bien que mal de vous aider à circuler, de vous aider à vous y retrouver. Je dis tant bien que mal parce que ce mouvement est très volatile, mouvant justement, et on a du mal à savoir à un instant T où se trouvent finalement les gilets jaunes. Est-ce qu'ils sont sur la chaussée, par exemple, des Champs-Élysées, ou ce qui sont sur le trottoir canalisé par les forces de l'ordre. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire cette édition spéciale pour y voir plus clair sur ce mouvement de contestation. Marguerite Lefebvre parlait d'incidents. Il y en a eu effectivement ce matin en Savoie, une mère de famille qui a percuté une piétonne, une manifestante. Cette personne a perdu la vie. C'est un drame qui est à déplorer. Au total, il y a eu 47 blessés, 3 personnes dans un état grave. Bilan du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi ces incidents qui ont eu lieu à Fréjus, où on va retrouver tout de suite notre correspondant dans le sud-est, Frédéric Michel. Frédéric, vous êtes avec nous ?
Oui, François.
On entend les sirènes autour de vous. Hein.
Alors, ce sont des camions qui passent la barrière de péage. Ici, il y a énormément de monde à la barrière de péage Fréjus-Saint-Raphaël. C'est l'une des plus importantes du sud de la France. Les gilets jaunes bloquent les deux sens de circulation et laissent passer au compte-goutte les véhicules et en priorité les véhicules de secours. Il n'y a pas eu d'incident ici à la barrière de péage. Les incidents ont lieu ce matin au niveau de Grasse où un véhicule a essayé de forcer un barrage des gilets jaunes. La police est intervenue. Un policier a d'ailleurs été renversé. Très vite, l'homme a été arrêté, interpellé. Il est actuellement en garde à vue. Pas d'incident ici pour l'instant. Ça se passe dans une ambiance très très bonne enfant. Je vous le disais, il y a une grande organisation autour de ce rassemblement qui rassemble plusieurs milliers de personnes. L'autoroute A8 est bloquée dans les deux sens. Elle est totalement paralysée. C'est le résultat de plusieurs opérations escargots menées de différents endroits dans le Var et les Alpes-Maritimes. Et je vous le disais, l'ambiance est pour le moment très bonne enfant. Écoutez, Marina, elle est infirmière et fait partie des gens qui ont organisé cette journée.
On a essayé de concilier la sécurité et le respect de tous, chacun. Les usagers de la route, c'est normal, il y en a qui bossent, il y en a qui ont besoin de se déplacer, c'est tout à fait normal. On essaie d'expliquer un maximum aux gens pour leur dire qu'on n'est pas là pour les emmerder, mais qu'on est là pour demander à ce que les Français puissent vivre dignement de leur salaire. Le blocage est interdit, la voie de gauche doit rester libre sur la troisième voie d'autoroute et la bande d'arrêt d'urgence. On a distribué des consignes en ce sens pour éviter tout accident. On ne veut pas de problème de bagarre ou de choses comme ça, on veut que tout se passe bien. On n'est pas là pour emmerder le monde, on est des citoyens avec les citoyens pour les citoyens.
Alors les gilets jaunes qui sont aujourd'hui présents là sur l'asphalte, à cette barrière de péage de Fréjus, ce sont essentiellement des gens âgés entre 20 et 60 ans. Il y a beaucoup de retraités, certes, mais aussi beaucoup, beaucoup de jeunes, des motards, très nombreux des motards qui vont bientôt prendre leur moto et aller sans doute en direction des villes de Fréjus, de Saint-Raphaël, bloquer les différents ronds-points. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule incertitude est de savoir combien de temps va durer ce mouvement. Ici, certains disent qu'ils sont prêts à passer la nuit à la barrière de péage de Fréjus. Et on parle déjà d'opération demain matin.
Absolument, merci Frédéric Michel. Pour l'instant, 16h36 sur Europe 1, nous sommes en direct. Il fait encore jour, mais c'est vrai que la nuit, on commence à être en hiver, hein, va pas tarder à tomber. On va voir si les gilets jaunes s'accrochent. Ils ont leur bande réfléchissante sur le gilet, ça peut aider à s'y retrouver en pleine nuit avec les phares des voitures. Mais c'est pas forcément simple. Merci Frédéric. Il y a Phil sur Twitter qui nous dit avec le hashtag Europe 1, la hausse doit être maintenue parce que c'est la fiscalité écologique. Et pour lui, il dit que c'est un mensonge en fait. Hein. Pour lui, c'est une fiscalité à 19% pour l'écologie et à 80% dans les poches de l'État, pardon. Cessez de vous foutre, dit-il, des Français.
70%.
Alors, réaction de Charles Villeneuve, cette accusation
beaucoup,
sur la fiscalité.
C'est déjà beaucoup.
Mais cette incompréhension sur la fiscalité écologique dont on a commencé à parler tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire que le prétexte est pris, est vrai, est réel, mais aussi il est le prix du baril du pétrole compte beaucoup aussi dans cette affaire d'augmentation de taxes supplémentaires, et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'essentiel des voitures équipées de l'essence bien sûr, mais aussi du diesel, notamment dans les villes moyennes, notamment dans le monde, surtout le monde rural, cette taxe qui frappe les carburants, et le diesel particulièrement, est considéré comme insupportable pour ce monde-là. Et on le voit bien d'ailleurs dans l'intervention de la plupart des envoyés spéciaux d'Europe 1. C'est le monde rural, c'est le monde des périphéries, c'est le monde des villes moyennes qui est là, sur les barrages, en train de bloquer, et en certain nombre, en tout cas, dans Provence, Côte d'Azur.
On le voyait
là,
sur cette carte de France qui avait été préparée par les organisateurs des Gilets jaunes, tapissée, voilà. Cette carte de France, tapissée de petits points jaunes.
Et quand on parle, si vous voulez, des manifestants qui essaient de monter sur l'Elysée, c'est quand même relativement mince par rapport, si vous voulez, à toute cette montée de la province.
Vous parlez de cette montée de la province, on va parler avec un sociologue dans un instant de cette sociologie, de cette France qui est aujourd'hui dans la rue avec les gilets jaunes. On va voir avec lui ce qu'il nous en dit. Qui sont-ils? Frédéric Michel nous disait qu'il y avait des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des enfants, des motards, des automobilistes. On va voir un petit peu, on va se poser, on continue la conversation bien sûr avec vous aussi Michel Cotta, Charles Villeneuve et avec les auditeurs d'Europe 1 au 39-21. On vous attend aussi sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. À tout de suite.
16h40 précisément, exceptionnellement, ce jour de manifestation, nous vous proposons une édition spéciale sur Europe 1 afin d'y voir plus clair sur ce mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes avec vous, François Geffrier, vos invités, les reporters d'Europe 1, puis les auditeurs sont aussi parfois nos yeux et nos oreilles, puisqu'ils publient des photos et des vidéos. Continuez à le faire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire. 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes à minute.
Les Gilets jaunes sont un peu partout en France et effectivement, ils sont aussi quelque part avec nous par le biais de nos reportages, de nos reporter dans ce studio qui lui est plutôt bleu, le studio bleu d'Europe 1. Nous sommes avec Noam Léandri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Observatoire des inégalités. Merci d'être avec nous en direct dans cette édition spéciale d'Europe 1 à 16h40. Je suis sûr que vous avez soit vu les gilets jaunes en sortant dans la rue, soit que vous les avez vus à la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de leur profil? Qui sont-ils ces gilets jaunes? Ce sont des Français comme d'autres? Ce sont une catégorie en particulier?
Oui, je crois tout à fait que ce sont des personnes comme n'importe qui. Alors, il n'y a pas de profil, hein, parce que c'est tous ceux qui sont mécontents de la hausse du carburant sur leur essence. Ça concerne à peu près tout le monde en France. Hein, à peu près tout le monde a aujourd'hui un véhicule et donc est touché par cette hausse de la fiscalité sur les carburants. Ce qui peut-être les caractérise particulièrement, c'est de peut-être avoir le sentiment d'être un peu floués de ceux qui peut-être ne sont pas touchés par les baisses d'impôts, notamment ceux qui vont d'abord toucher les plus aisés, hein, les 10% les plus aisés de la population bénéficiaient de la suppression de l'impôt sur la fortune, de baisse de l'impôt sur les revenus du capital. Et en revanche, eux, ils ont l'impression de payer aussi pour, en augmentant la fiscalité sur l'essence, payer pour les plus aisés. Vrai que ça fait 90% de la population quasiment.
Mais est-ce que ces 90% de la population se sentent représentés par ces gilets jaunes? Est-ce que la majorité silencieuse qu'on appelle parfois est dans la rue aujourd'hui justement, ou est restée chez elle pour vous?
Je peux pas répondre pour tout le monde, mais j'ai pas le sentiment non plus qu'on parle d'une cinquantaine de milliers de personnes dans la rue. Je pense pas qu'on puisse considérer que ça représente 35 millions de nos concitoyens. Mais c'est vrai que c'est un mouvement quand même qui existe. Il faut le reconnaître. Il y a quand même pas mal de personnes aussi, je pense, qui en soutien ont mis un gilet jaune sur le devant de leur véhicule. Donc on voit qu'ils sont pas seuls. Mais je pense pas qu'il faut généraliser. En tout cas, ce que ça traduit, c'est quand même un mouvement de mécontentement un peu général. Et peut-être un manque d'explication sur à quoi sert cette fiscalité écologique, parce que sur le fond, je pense qu'elle est bonne. Simplement, peut-être qu'on ne voit pas ce qu'est la politique écologique en face qui justifie cette hausse de la fiscalité.
C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Noam Léandri, restez avec nous. Je veux juste vous faire écouter un rapide extrait d'une interview du préfet de Savoie, Louis Laugier, qui parlait justement de ces manifestants. C'était tout à l'heure sur Europe 1.
J'avais appelé, comme cela a été fait par le ministère depuis plusieurs jours, au fait qu'il faut respecter des règles élémentaires en termes de sécurité. D'abord, déclarer une manifestation, ce qui n'était pas le cas. Et ensuite, à partir de là, respecter des règles de sécurité, qui sont celles notamment du filtrage, ce qui permet de ne pas exposer des personnes à des risques conséquents. Nous n'avons pas affaire à des manifestants professionnels. Le principe est de négocier avec eux, de leur expliquer les choses, les règles. C'était ce qui se passait dans le secteur de Pont-de-Montvoisin, là où il y a eu l'accident. La gendarmerie était sur un point juste à côté, où il y avait un autre point de blocage, et passer de point en point comme ça.
Noam Léandri, vous êtes toujours avec nous, sociologue, président de l'Observatoire des inégalités. Quand on entend ce préfet nous dire que ce ne sont pas des manifestants professionnels, alors c'est sûr que personne n'a la profession de manifestant, mais est-ce que pour vous, ce sont des gens qui découvrent la manifestation aussi, qui, non seulement ils ne sont pas organisés avec des structures, des syndicats, mais peut-être que c'est leur première manif?
Oui, probablement, comme déjà peut-être aussi à l'époque, on ne peut pas faire de parallèle à ça, mais la manif pour tous contre le mariage homosexuel avait aussi conduit dans la rue des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'aller manifester dans la rue. C'est peut-être un nouveau mouvement un peu non organisé, j'ai envie de dire, de personnes je crois que ça s'apprend en manifestant, la manifestation. Et ça reste un mouvement qui reste assez limité dans son ampleur, même s'il y a beaucoup de points de blocage. C'est à chaque fois des petits groupes isolés qui se sont réunis. Alors par la voie peut-être des réseaux sociaux, qui sont un nouveau média maintenant pour organiser des mouvements sociaux. Mais ça, voilà, l'ampleur reste pour l'instant à ce stade, semble-t-il, limitée.
On avait parlé d'une France périphérique à une certaine époque. C'est peut-être quelque chose de péjoratif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces gilets jaunes sont de la France périphérique?
Alors, je ne sais pas si ils sont de la France périphérique. En tout cas, ça traduit bien quand même un sentiment d'inégalité. Et donc, je pense que ce mouvement a à voir avec la question des inégalités, de la redistribution de la richesse dans notre pays. Et probablement qu'il y a le sentiment aussi parfois d'être un peu une France... vu de haut, depuis Paris, depuis par les certaines élites, une sorte de mépris qu'on peut avoir vis-à-vis de la France moche, hein, comme disaient à un moment certains journaux. Donc c'est vrai que ça peut être un sentiment d'être relégué en seconde zone. Je pense pas que ce soit ceux de la France périphérique, parce qu'on les trouve dans tous les centres-villes, je pense, y compris sur les Champs-Élysées. C'est pas forcément des personnes qui viennent de très très loin. C'est un mouvement plus général de mécontentement social.
Merci beaucoup, Noam Léandri. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire des inégalités. La parole aux auditeurs dans cette édition spéciale d'Europe 1. Nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes avec nous et vous, justement, j'imagine que vous êtes l'un de ces gilets jaunes.
Oui,
vous l'avez là sur les épaules.
C'est gilets jaunes, comme beaucoup de Français. Je me reconnais dans un mouvement citoyen, tout simplement de gens qui, alors au-delà du prix de l'essence, qui est un petit peu le détonateur, de gens qui se lèvent tôt le matin, vont au boulot, accompagnent leurs enfants à l'école, vont les chercher le soir à la garderie, au sport, etc., et utilisent leur voiture et puis payent tout le temps. Et je me reconnais dans ce mouvement un petit peu ras la casquette, j'ai envie de dire, quoi. Au-delà du gilet jaune, c'est jusqu'à la casquette.
Vous êtes de Villeneuve-d'Ascq, donc c'est à côté de Lille dans le Nord, et vous voulez que le mouvement continue.
Le mouvement continue. continue et justement, la question que je me posais, c'est comment peut continuer ce mouvement? Et moi, j'ai eu une idée dans le droit chemin de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire de gens comme vous et moi, comme nous tous. Eh bien, lundi, nous allons retourner au travail. Et moi, je proposais que, alors c'est un espèce d'appel que je lance, et je proposais que les gens sur leur lieu de travail déposent où ils se trouvent à leur travail, eh bien déposent un gilet jaune, soit sur le dossier de leur chaise dans un bureau, soit sur tout autre objet qui se trouve près de leur lieu de travail, pour continuer à montrer que le mouvement ne s'est pas arrêté samedi soir ou dimanche, et qu'il continue dans la dignité, qu'il continue dans le calme, mais qu'il continue dans la détermination.
Laurent, merci beaucoup. Vous voulez donc, si je ne me trompe pas, repeindre un petit peu la France en jaune avec des gilets jaunes partout sur les dossiers, non seulement des voitures, mais aussi dans votre travail. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir appelé le 3921, le standard d'Europe 1. La conversation continue dans un instant. On va faire une petite analyse politique. Nos grandes voix d'Europe 1 sont là. Michel Cotta, Charles Villeneuve, et nous serons aussi avec le journaliste du service politique, Jean-Rémy Baudeau d'Europe 1. A tout de suite, appelez-nous 3921 et les réseaux sociaux, hashtag Europe 1.
16h49, Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 18h avec vous, François Geffrier. On va continuer à parler des gilets jaunes et de ce mouvement. Colère noire et marée jaune, marée ou pas, vous êtes sur place, n'hésitez pas à témoigner, à nous dire, à nous raconter comment vous avez vécu cette journée au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Exactement, nous sommes en édition spéciale depuis 16h et jusqu'à 20h avec vous, au fur et à mesure que le jour baisse, que les gilets jaunes réfléchissent dans la pénombre, la lumière des phares des voitures sur tous les lieux de blocage, les lieux de rassemblement. On le rappelle, 2000 rassemblements partout en France, 124 000 personnes qui se sont mobilisées. Alors il y a eu des incidents graves. Ce matin, une personne est morte, une femme percutée par une voiture. Elle voulait accompagner sa fille chez le médecin. Elle a pris de panique, elle a percuté une personne qui manifestait. Il y a eu au total en France 47 blessés. Les forces de l'ordre sont déployées où elles peuvent, où elles ont pu déceler des incidents et des manifestations. 24 personnes ont été interpellées pour des refus d'obtempérer, pour des rébellions, pour des barrages forcés justement. Il y a eu 17 gardes à vue. On va basculer sur une analyse un peu plus politique, si vous le voulez bien, mais on attend toujours vos appels évidemment au 3921, le standard d'Europe 1. Nous sommes avec Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir François.
Alors, on n'a pas vu beaucoup, j'ai l'impression en tout cas, de membres du gouvernement s'exprimer aujourd'hui. On a vu certains leaders de l'opposition, on entendait tout à l'heure Laurent Wauquiez. Côté majorité, c'est un petit peu le silence?
Alors en fait, il y a évidemment le ministre de l'Intérieur qui lui est en alerte, c'est normal, avec des points réguliers sur la situation. On se rappelle, dernier point, 2000 rassemblements, 124 000 personnes, mais ça c'était le point. À la mi-journée, on aurait besoin de chiffres un petit peu plus à jour. L'exécutif, pour l'instant, observe tout ça avec beaucoup de prudence. C'est quasiment effectivement le silence, à part quelques tweets de ministres qui appellent plutôt à la prudence, à faire attention autour des blocages. Pas de prise de parole. Il faut quand même noter que les accidents de ce matin, c'était la hantise du gouvernement avec les débordements de violence. Il faut évidemment regarder ce qui se passe autour de l'Élysée et des Champs-Élysées avec beaucoup de prudence. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne veut pas faire de commentaires. Pas de commentaires du côté de l'Élysée, pas de commentaires du côté de Matignon, qui renvoie d'ailleurs systématiquement vers la place Beauvau. La réalité, c'est que c'est difficile pour l'exécutif de prendre position alors que le mouvement n'est pas terminé et puis alors qu'il n'y a pas vraiment de leader qui puisse incarner tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'au gouvernement, on a compris que cette mobilisation dépassait largement la question du carburant, que les récentes annonces n'ont d'ailleurs rien changé. Un mouvement protéiforme, mais certains, quand même, dans les couloirs sont assez lucides, expliquent que tout ça, c'est quand même un mouvement qui relève d'un sentiment d'abandon d'une partie de la population, qu'on ne peut pas faire mine de découvrir que la France est fracturée. Ça, c'est un conseiller qui me disait ça un petit peu plus tôt. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron, il n'a pas réussi à traiter cette fracture et que le bilan de cette journée, ce sera évidemment l'indicateur du rejet réel de la politique du gouvernement.
Et vous avez raison de dire qu'on attend des chiffres un peu plus actualisés que ceux donnés il y a plus de 4 heures maintenant par le ministère de l'Intérieur. Je me tourne vers vous, Michel Cotta. Ce jour aujourd'hui, gilet jaune, au départ, c'est voilà, les gilets jaunes, c'est ce qu'on a dans son coffre de voiture. Donc là, c'était lié à la hausse des prix du carburant. Mais finalement, ça s'est transformé un petit peu en un jour de colère contre Emmanuel Macron en général.
Il y a une sorte d'amalgame, bien sûr, entre quand vous voyez des motards, par exemple, se mobiliser. Je ne pense pas que ce soit le prix du carburant qui les motive en premier.
Ils sont concernés aussi.
Oui, mais enfin, faiblement par rapport, effectivement, aux gens qui font leur plein, qui font 100 km par jour et qui sont obligés de faire 3 fois le plein par semaine, comme en temps ici et là. Non, donc il y a autre chose chez ça. Et puis aussi, on voit bien que qu'est-ce qui a été malheureusement la victime, la première victime de cette journée a été une retraitée. C'est-à-dire qu'il y a aussi le malaise des retraités. Ça s'est terminé épouvantablement, mais il y a donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement un amalgame. En plus, apparemment, dans les manifestations, on trouve des anciens électeurs d'Emmanuel Macron qui disent...
Des déçus, quoi.
Qui disent, ah, on avait voté pour lui pour que ça change. Alors ça, évidemment, c'est le danger. Et au fond, on disait tous, lorsque Emmanuel Macron a été élu, on disait tous, attention, parce que les gens espèrent tellement de lui, puisqu'ils ont en même temps dégagé les partis, ils espèrent tellement que, évidemment, la déception risque
est aussi grande
d'être au, bon. Moyennant quoi, ça n'est pas la rébellion de toute la France. Je veux dire, c'est pas la marche vers Rome. Vous voyez, comme on disait, de la marche qui a porté Mussolini au pouvoir. C'est pas la marche sur Rome. C'est simplement des mécontents qui veulent le faire savoir, mais qui veulent le faire savoir hors des partis. Et ça, ça me paraît très important parce que quand j'entends Nicolas Dupont-Aignan, quand je dire jusqu'à combien de morts faudrait-il aller pour que Emmanuel Macron entende, ça je trouve que c'est quand même le comble d'une récupération politique. Alors que si cette dame est morte, malheureusement, ça a été la faute d'une autre automobiliste qui avait aussi des choses importantes à faire.
Nicolas Dupont-Aignan qui sera invité tout à l'heure entre 18h et 20h de Philippe Vandel sur Europe 1. Je précise le passage.
Surtout qu'il ne récupère pas trop les choses, parce que trop gros, c'est pas possible.
On l'écoutera ensemble. Charles Villeneuve, ce jour de colère dont je parlais, contre Emmanuel Macron, comme on avait vu un jour de colère contre François Hollande, c'est ça qui se dessine derrière ce mouvement des Gilets jaunes et le gouvernement qui est très discret face à ça, en tout cas aujourd'hui.
C'est normal, comme tu l'as souligné tout à l'heure.
Vous parlez à Jean-Rémy Baudot, là.
Voilà. Il est évident que le seul interlocuteur valable, officiel aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il va attendre le bilan qui se fera demain soir, et à partir de là, peut-être fera une déclaration. On attend plutôt des communiqués sur le chiffre exact et sur le point de tous ces blocages. Mais je crois que l'une des grandes questions qui était posée et qui pour l'instant reste en point d'interrogation, notamment de la part de la classe politique et surtout du gouvernement, de l'exécutif, c'est peut-on aujourd'hui réussir une grande réunion de masse sans les corps intermédiaires ?
Donc toujours les syndicats, les associations.
Absolument. Voilà. Est-ce que si c'est le cas, ce sera sans doute le début de quelque chose de très nouveau ? Bon. Et là, pour l'instant, on ne peut pas définitivement tirer une conclusion là-dessus, même si ce mouvement, sur le plan de son ampleur, n'est pas aussi massif qu'attendu, compte tenu de la publicité exceptionnelle depuis un certain nombre de jours, entre finalement tous les médias qui ne parlaient que de ce rassemblement de Gilets jaunes. Bon, c'est quand même en dessous de ce qui était attendu. Même si la première manche était gagnée par les Gilets jaunes, en ce sens où le gouvernement, et notamment le chef du gouvernement, s'est précipité pour présenter et proposer une batterie de mesures. D'ailleurs, l'a-t-il fait trop tôt ? Ce sera d'ailleurs une des questions qu'il faudra poser sur le plan politique lundi matin. Oui. Compte tenu du fait, justement, de l'ampleur pas considérable de cette réunion. La notion de protestation sociale, en tout cas, a changé. Ça, on peut d'ores et déjà dire qu'avec les réseaux sociaux, ça a changé quelque chose. Et c'est en cela qu'il faut voir, si vous voulez, je ne dis pas encore un événement, mais quand même un point politique sur lequel il faudra débattre.
On a plusieurs auditeurs qui nous appellent. On n'a pas encore tout de suite le temps de les prendre sur l'antenne d'Europe 1. On va essayer. Merci Charles Villeneuve, merci Michel Cotta, vous restez avec nous. Vous aussi, Julien, Janine, qui êtes au standard, restez avec nous. On va vous prendre dans l'heure qui vient. L'édition spéciale d'Europe 1 continue. Édition spéciale sur ces Gilets jaunes. Vous continuez de nous appeler au 3921 et sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Merci à tous, à tout de suite. Il est 16h58, merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous sommes en édition spéciale, au cœur de cette édition spéciale Gilets jaunes. Un point complet de la situation en ce jour de colère noire de la population française, en tout cas de ceux qui manifestent contre la hausse des prix du carburant. Avec vous, Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Ah bonsoir François, bonsoir à tous. Et des tensions en ce moment sur les Champs-Élysées à Paris. Des centaines de Gilets jaunes ont envahi l'avenue pour objectif rejoindre l'Élysée et crier leur colère face à la hausse des prix du carburant sous les fenêtres d'Emmanuel Macron, des manifestants qui bloquent également le périphérique parisien. Autre point de blocage sur l'A6. 6. L'autoroute du Soleil est coupée dans les deux sens au niveau du péage de Villefranche-Limas dans le Rhône. Ça bloque également sur l'autoroute A8 à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Sur la 1 dans le Nord, dans la Somme, ce sont 800 motards manifestants qui ont défilé dans les rues d'Amiens. En tout, plus de 2000 rassemblements et près de 500 points de blocage ont été recensés par le ministère de l'Intérieur à la mi-journée. 124 000 manifestants à travers le pays. Une mobilisation sous tension. Plusieurs manifestations ont dégénéré, comme à Dijon, où 5 à 6 000 personnes se sont rassemblées devant le Zénith, selon la préfecture. Des incidents graves ont également eu lieu. Une femme de 63 ans a été tuée ce matin en Savoie, à Pont de Beauvoisin, après qu'une automobiliste a foncé sur les manifestants qui tapaient sur sa voiture. Au moins 47 personnes ont été blessées à travers le pays, selon le ministère de l'Intérieur, dont 3 grièvement. 24 personnes ont été interpellées parce qu'elles cherchaient à forcer les barrages des manifestants. Parmi elles, 17 ont été placées en garde à vue.
Merci beaucoup Sophie Tussaud.
17h. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et vous restez avec nous, François Geffrier, suite de notre édition spéciale consacrée à cette mobilisation des Gilets jaunes. On en parle avec vos invités, Michel Cotta, Charles Villeneuve, les journalistes et les reporters d'Europe 1. Puis avec vous, les auditeurs, 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans cette édition spéciale jusqu'à 20h, effectivement, Marlène. Édition spéciale, vous nous appelez au 3921, vous intervenez sur l'antenne d'Europe 1 pour nous dire ce que vous pensez. Il y a Julien, il y a Janine qui attendent au standard. Ce que vous pensez de cette journée, est-ce que vous êtes solidaire des Gilets jaunes, est-ce que vous en avez au contraire ras-le-bol de ce genre de blocage? On va rejoindre tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux, Victor Dolande, reporter d'Europe 1, qui est depuis le début de la journée sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. On l'entend, hein, ça klaxonne derrière. Je vous avais dit, Victor, de nous rappeler s'il se passait quelque chose, et c'est ce que vous faites car la tension monte, là vous êtes. Hein.
Oui, il y a encore une heure, les Gilets jaunes opéraient un barrage filtrant au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Mais en quelques minutes, les forces de l'ordre ont changé leur stratégie. Ils ont choisi de remonter l'avenue vers l'Arc de Triomphe pour repousser les Gilets jaunes. Ces manifestants qui sont d'ailleurs plus nombreux à présent. Si leur rassemblement s'est déroulé dans le calme toute la journée, la progression des CRS a quelque peu changé la donne. Des fauteurs de troubles ont ralenti l'avancée des forces de l'ordre en disposant des enchevêtrements de barrières sur la chaussée. La pression est tout de même retombée depuis 5-10 minutes. Le cordon de CRS est toujours étendu sur le haut de l'avenue des Champs-Élysées. Face à eux, une centaine de gilets jaunes totalement stoïques. Et pendant ce temps, d'autres petits groupes se reforment ici et là dans les rues des alentours pour bloquer à nouveau la circulation.
Merci beaucoup Victor Dolande en direct de l'avenue des Champs-Élysées pour Europe 1. Merci Victor, vous nous rappelez hein, là encore si la situation change. On est en train d'apercevoir aussi que des personnes, hein, des gilets jaunes se trouvent rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est à quelques centaines de mètres de là où vous êtes et c'est la rue de l'Élysée. Alors ils ne sont pas devant l'Élysée mais ils sont à quelques encablures. On va tout de suite à Bordeaux voir comment ça se passe pour les gilets jaunes bordelais. C'est là que vous vous retrouvez Stéphane Place, correspondant en permanent d'Europe 1 à Bordeaux. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Une mobilisation aussi très importante du côté de, voilà, de chez vous à Bordeaux, hein, Nouvelle-Aquitaine.
Oui, ici un peu plus de 1000 manifestants qui se sont réunis ce matin dans le centre-ville de Bordeaux et qui ensuite ont cheminé à travers le centre-ville jusqu'en début d'après-midi. Ils se sont retrouvés au pied du pont Chaban-Delmas, c'est là qu'est intervenue la dispersion avec des gilets jaunes et des revendications très différentes, somme toute. On a entendu évidemment des revendications autour et des plaintes autour de la hausse du carburant, les impôts, le poids des taxes d'une manière générale, la baisse du pouvoir d'achat. Il y a également un manifestant qui m'a parlé des mesures de transition écologique, mais qui n'étaient pas suffisamment fortes. Enfin, vous voyez une accumulation de différentes revendications. Écoutez par exemple ce couple girondin qui habite dans l'agglomération bordelaise. Ils sont venus tous les deux, mari et femme, manifester avec les gilets jaunes tout à l'heure.
On est des vaches à lait, le carburant, la taxe sur le carburant, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le vase. C'est un cumul de tout ce qui est pondu depuis le début de l'année, depuis le début de son mandat d'ailleurs. C'est ce cumul, les retraites, les suppressions de postes, tous ces postes qui vont ne pas être remplacés dans la fonction publique où on va mettre des contractuels à la place, contre Macron aujourd'hui en général.
Quand je vois qu'en fin de mois on a 300-400 euros pour manger, on est trois, j'ai une gamine qui fait les études, le budget essence, eh bien sûr il en fait partie puisque la gamine, eh bien, elle a le permis, donc elle a sa voiture, elle ne travaille pas. Ça fait beaucoup, quoi. C'est le ras-le-bol, c'est la pauvreté, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, c'est pour ça que je suis là.
Et tout à l'heure, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine a signalé qu'il y avait eu un certain nombre d'interpellations et 4 personnes placées en garde à vue dans toute la région.
Voilà, quelques incidents, effectivement. Merci beaucoup, Stéphane Place. Quelques incidents dans la liaison aussi technique qui nous reliait avec Stéphane. Pardon pour ces quelques petits désagréments. Ce qui compte, c'est ce qu'on a entendu, hein, c'est cette goutte d'essence qui fait déborder le vase, ce que nous disait ce témoignage de cette personne rencontrée par Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux. Alors, on va prendre tout de suite une auditrice en ligne, Janine, hein, j'en parlais tout à l'heure. Janine, vous, alors pas de chance, vous êtes dans votre voiture, c'est ça, dans un embouteillage ?
Oui, ça y est, je suis sortie de l'embouteillage.
Pas trop tôt.
Oui, voilà, c'est pas trop tôt. Il y avait 4 voies et 3 étaient bloquées, donc ça faisait. Mais finalement, il y a très peu de voitures qui bloquaient. Mais il suffit que 3 voies soient bloquées pour que ça fasse un embouteillage lourd.
Oui. Hein.
Et dans la voiture qui était qui attendait comme moi, je ne voyais pas de gilets jaunes. Tout le monde subissait l'embouteillage. Alors, je ne sais pas comment ils feront leur comptage ce soir, mais c'est pas. C'est très agaçant.
Vous êtes. Oui, vous êtes sur la 13, hein, je précise. La 13, c'est l'autoroute qui part de Paris et qui va vers la Normandie. Hein.
Voilà, alors maintenant j'ai quitté la 13, je suis sur. Je ne sais pas comment elle s'appelle.
Peu importe, ce qui compte, c'est que ça roule, Janine.
Maintenant ça roule, oui, ça c'est vrai.
Et donc, ce que je comprends, c'est que vous ne soutenez pas du tout, en tout cas, ce mouvement des Gilets jaunes qui, ce soir, pour vous personnellement, vous a en plus pénalisé.
Non, mais c'est pas le problème que ça m'ait canalisé ou pas. J'étais contre de toute façon parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le diesel est moins cher que l'essence. Il suffit qu'on monte le diesel pour que d'un seul coup ils réagissent. Ça fait quand même des dizaines d'années qu'on leur dit que le diesel c'est pas top quoi.
Merci beaucoup Janine de nous avoir appelé et j'aimerais faire agir Julien qui est avec nous. Julien qui a 34 ans, qui vient. Alors Julien, il n'est pas avec nous, pardon. On me fait des grands gestes en régie pour me dire qu'il n'est plus avec nous. Merci beaucoup en tout cas à Janine de nous avoir appelé. Tous ceux qui veulent passer à l'antenne d'Europe 1 peuvent le faire. C'est très simple. Vous appelez au 3921. Ça vous en coûte 50 centimes d'euros la minute ou alors vous nous envoyez tout simplement un message par les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. On verra si on a Julien tout à l'heure. Une réaction peut-être Charles Villeneuve à ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans leur voiture et sont pénalisés par les gilets jaunes. Et ça aussi, ce sont des Français comme les autres.
Bien sûr, mais on voit bien de toute façon qu'il y a un certain nombre de Français qui n'ont pas participé au mouvement.
La plupart, a priori.
il semble, oui. Maintenant, il y a aussi un certain nombre d'autres Français qui, je l'ai vu ce matin dans des grands magasins de grande consommation, portaient des gilets jaunes alors qu'ils faisaient la queue pour payer les articles qu'ils venaient d'acheter. C'était simplement un geste de solidarité. Et puis, il y a ceux qui étaient contre. D'ailleurs, il y avait des dialogues qui s'engageaient en disant « Mais attendez, maintenant vous découvrez les nouvelles taxes, mais ça fait longtemps, mais bien avant Macron. » Là, manifestement, c'était des pro-macronistes. Il y en a quand même aussi, même dans les queues des grands magasins.
Un mot, Michel Cotta.
Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la récupération possible par les hommes politiques, mais je note que ceux qui sont les plus discrets, ce sont les syndicats. Parce qu'ils ne sont pas à l'origine de cette manifestation. Ils sont désarçonnés parce que dès que les manifestations émanent de la base et qu'ils ne peuvent pas la contrôler, ça leur pose un problème. Et donc, eux, ils restent prudents sur ce genre de manifestation. On va voir quel sera leur commentaire demain. Mais ils sont au moins aussi silencieux que le gouvernement. Hein.
Dans un instant, chers amis Grande Voix, on va reprendre la conversation avec vous. On va faire une courte pause et ensuite, on va juste brièvement passer rue du Faubourg-Saint-Honoré, voir ce qui se passe. Parce que, voilà, on voit sur certaines images beaucoup de CRS, beaucoup de gens qui courent dans les rues. On va voir, très simplement, on va interroger un commerçant qui se trouve dans cette zone. À tout de suite.
Il est 17h10 et depuis 16h, vous écoutez François Geffrier. Nous sommes en édition spéciale jusqu'à 20h. Gilets jaunes oblige. Êtes-vous solidaire de ce mouvement ou au contraire, êtes-vous réfractaire? Dites-nous pourquoi. Au 39-21, le standard Europe 1, 50 centimes d'euros la minute. Et si vous êtes plus à l'aise derrière un clavier, vous pouvez aussi avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. Et puis si vous le voulez, vous pouvez aussi poser vos questions et interpeller Michel Cotta et Charles Villeneuve puisqu'ils sont vos invités, François Geffrier.
Ce sont les grandes voix d'Europe 1. Effectivement, ils passent l'après-midi avec nous. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à tous ceux qui appellent le standard Europe 1 au 39-21. Nous sommes en ligne avec Jean-François. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Vous êtes, je crois, dans une boutique qui se trouve rue du Faubourg-Saint-Honoré. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, et il y en a un certain nombre, évidemment, qui ne connaissent pas cette rue, qui est une parallèle aux Champs-Élysées, mais qui se trouve être la rue de l'Élysée. Mon cher Jean-François, que se passe-t-il? Je crois que vous faisiez votre shopping et que là, vous êtes un peu bloqué.
Exactement. En fait, il y a des manifestants qui ont pris le faubourg à contresens pour remonter vers l'Élysée avec des motards, plein de gilets jaunes. Les policiers
visiblement n'était pas prévu. Ils sont arrivés en colonne depuis la rue Royale, qui est la rue qui rejoint la place de la Concorde jusqu'à l'Élysée. Ils ont remonté toute la rue pour finalement se positionner devant l'ambassade du Japon et pour essayer de bloquer les manifestants. Et les manifestants étaient assez nombreux et il y a eu un petit mouvement de foule. Et puis la police a fini par envoyer des gaz lacrymogènes, ce qui fait que les manifestants ont évacué la rue du Faubourg Saint-Honoré à l'heure à laquelle je vous parle pour refluer vers la rue Royale qui est près de la Concorde.
Voilà, la rue Royale, c'est celle qui relie, pour ceux qui connaissent un petit peu, la place de la Madeleine à la place de la Concorde. Hein, cette rue Royale qu'on avait vue lors de, notamment des obsèques de Johnny Hallyday. Alors Jean-François, vous avez été pris dans ce mouvement, là vous êtes bloqué, vous êtes à nouveau libre de vos mouvements. Comment, enfin, voilà, est-ce que la situation est un petit peu rétablie?
Alors pour l'instant, tous les commerçants, là on est dans un magasin, tous les commerçants ont descendu leur grille pour éviter qu'on sorte, parce que bon, il y a un petit peu de tension, on va attendre 10 minutes, mais l'ambiance est calme et sereine à l'intérieur des magasins. Et à l'extérieur, bon, maintenant la rue est complètement vide puisque les policiers ont donné l'assaut il y a exactement 5 minutes, quoi.
Et j'imagine que l'air est peut-être un peu saturé en gaz lacrymogène.
Ah oui, on a été obligé de, on regardait aux fenêtres, mais on ne les avait pas ouvertes, mais le gaz lacrymogène est quand même rentré dans les boutiques et on a dû boire un peu d'eau pour essayer d'évacuer le picotement à la gorge que ça pouvait provoquer.
Effectivement. Merci beaucoup Jean-François de nous avoir raconté avec vos mots ce moment d'actualité qu'on vit ensemble en direct sur Europe 1 dans cette édition spéciale depuis le milieu de cet après-midi et jusqu'à 20h ensemble. Vous nous appelez au 3921. Nous sommes aussi avec nos envoyés spéciaux, nos reporters et avec des invités. Bonsoir Jean-Baptiste Djebari.
Bonsoir.
Vous êtes membre de La République En Marche, député de la Haute-Vienne, si je ne me trompe pas.
Absolument.
Monsieur le député, on voit ce mouvement de colère, on voit ces dizaines de milliers, et même 125 000, c'était le chiffre sans doute bien dépassé depuis, donné à la mi-journée par le ministère de l'Intérieur. C'est un petit peu un jour de colère contre votre majorité, Jean-Baptiste Djebari.
Oui, oui, et nous entendons d'ailleurs cette colère, les mécontentements, mais nous, notre travail, c'est de trouver des solutions, alors sans trop déplaire, de les expliquer ces solutions. Et là, nous avons répondu tout au long de la semaine à la crispation qui existait autour de la fiscalité des carburants, notamment en améliorant le dispositif pour ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous, pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours, autour du chèque énergie, des indemnités kilométriques. Nous essayons de répondre au fond de la contestation et nous observons aussi aujourd'hui que la grogne, elle agrège des mécontentements un peu divers, que par ailleurs elle est parfois instrumentalisée par des oppositions, par des partis politiques, ce que je ne peux que déplorer.
Est-ce que vous êtes surpris, Jean-Baptiste Djebari, député de La République En Marche, de l'ampleur de la mobilisation?
Je ne sais pas, j'ai vu les chiffres, 125 000 personnes, je ne sais pas si on peut parler d'une ampleur phénoménale, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a
2000 points de rassemblement partout en France.
Oui, 2000 rassemblements. En tout cas, il y a eu un drame. Il y a eu un drame humain, il y a des blessés qui sont graves, et ça, c'est toujours assez effroyable, et ça plaide aussi pour que, dès lors qu'une manifestation se prépare, la préfecture en soit informée, parce que ça permet au premier chef de protéger ceux qui manifestent, et donc le cas échéant de faire acheminer les secours et de secourir les populations qui revendiquent ou qui exercent le droit de manifester. Donc je déplore que dans 90% des cas, les autorisations préfectorales n'aient pas été demandées ni obtenues.
C'est ce que nous rappelait Charles Villeneuve, ancien manifestant à 16h tout à l'heure. Jean-Baptiste Djebari de La République En Marche, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que cette journée de colère, puisqu'elle pourrait être suivie d'autres journées, peut faire que Emmanuel Macron va bouger, va faire d'autres annonces au-delà de celles qui ont été faites cette semaine?
Vous savez, je crois que nous avons répondu avec un plan qui est assez complet, qui met 500 millions d'euros en plus pour le budget cette année, s'agissant des mesures autour de la fiscalité des carburants et puis plus largement du chauffage, bref, de la consommation d'énergie. Nous avons une
programmation. Visiblement, ça n'a pas suffi, en tout cas, pour calmer la colère.
Oui, justement, c'est pour ça que nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie qui va parler de rénovation énergétique des bâtiments, des passoires thermiques, qui va viser à éradiquer cette consommation de fuel qui est polluante, qui coûte cher et de laquelle nous devons beaucoup moins dépendre à l'avenir. Et ce sera scandé par le gouvernement tout au long du mois de novembre pour se clôturer à l'occasion de la COP24 mi-décembre. Donc je crois que sur cette politique énergétique, écologique, nous allons continuer à distiller des mesures tout au long du mois.
Est-ce que ces mesures sont comprises? Est-ce qu'elles ne sont pas soit trop technocratiques, soit réservées à certaines catégories avec des critères pas croyables, pas possibles pour en bénéficier, Jean-Baptiste Djebari?
Je crois que le chèque énergie que nous avons passé de 150 à 200 euros pour 3,6 millions de Français, ce n'est pas du tout un dispositif technocratique, c'est utile, c'est efficace, c'est demandé par les Français, ça leur permet de payer leurs factures d'EDF, leurs factures d'électricité, de gaz,
de fuel, et ça c'est extrêmement concret. Nous essayons, peut-être que parfois nous n'expliquons pas suffisamment bien, mais en tout cas les mesures que nous prenons des mesures très concrètes qui touchent la vie des Français, et nous essayons encore d'améliorer le dispositif.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebbari, je rappelle que vous êtes député de La République En Marche. Nous serons avec un autre député, lui est de la France Insoumise, dans quelques secondes. C'est Éric Coquerel, on continue cette édition spéciale sur Europe 1 dans un instant avec vous, avec nos invités, avec nos grandes voix d'Europe 1, nos reporters et vous au 3921, vous nous appelez.
17h20, édition spéciale sur Europe 1. Vous écoutez François Geffrier jusqu'à 18h. Philippe Vandel prendra le relais jusqu'à 20h. Il est question des gilets jaunes et on fait le point avec vos invités, les reporters d'Europe 1. Les auditeurs, bien sûr, sont invités à témoigner et à raconter cette journée de mobilisation au 39-21. Le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, 50 centimes d'euros. Et encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos photos. Elles sont nombreuses.
Absolument, on les voit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On les voit notamment tous ces rassemblements, ces 2000 rassemblements comptabilisés par les forces de l'ordre, 124 780 personnes qui y ont participé. Ça, c'était à midi et demi, donc autant vous dire que ça a dû pas mal augmenter depuis. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de casser l'antenne sur Europe 1 et de faire cette édition spéciale de 16h à 20h. On va tout de suite vous donner quelques réactions d'auditeurs. Il y a Sylvie qui nous disait tout à l'heure, difficile de savoir qui sont vraiment les manifestants du jour. Elle s'adresse à vous, Charles Villeneuve. Assurément des gens qui souffrent au quotidien, de vrais pauvres, mais aussi des anti-Macron du début et des bobos qui ne manquent pas mais ne veulent pas changer de vie, qui parlent pauvreté. Voilà une association de mécontentement que nous dit Sylvie sur le hashtag Europe 1 sur Twitter. Et puis on a Julien qui est avec nous au téléphone. Bonjour Julien.
Bonjour à vous, bonjour.
Vous avez 34 ans, vous nous appelez de la Savoie, de Châles-les-Eaux. Et vous avez participé ce matin à ce mouvement des Gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Pendant plus de 2 heures, donc j'étais avec des Gilets jaunes, et ce que j'ai pu constater, c'est que bon, il y a quand même bien 2-3 excités anti-Macron, mais le fond du problème, c'était pas forcément ça. C'est des gens qui travaillent, des gens qui sont même durs, qui se lèvent très tôt le matin, qui font 35-40 heures par semaine. Enfin, la France, comme on dit, la France qui se lève tôt, bah, c'était tout à fait ça. Et quand on discute un peu avec des gens, bah, c'est des personnes qui n'ont pas vu leur taxe d'habitation baisser. Pourtant, c'est des personnes qui gagnent 1400, 1300 euros par mois. Par contre, qui ont reçu la note de gaz, plus 24% d'augmentation. L'électricité, plus 2%. La CSG qui a été augmentée. Par contre, oui, ils ont eu un petit gain de salaire de 2,50 euros par mois. Les aides qui ont été apportées un peu pour les impôts, supprimées. Donc en fait, on a l'impression que c'était cette classe moyenne, alors classe moyenne supérieure, classe moyenne, voilà, on va dire celle qui gagne entre 1000, 1200, 1300, 1800 euros par mois, qui une fois qu'elle travaille et qu'elle paye son loyer, qu'elle paye sa nourriture, qu'elle paye ses taxes, qu'elle paye ses impôts, qu'elle paye sa bouffe, ils arrivent au 17 novembre avec 130, 140 euros par mois. Donc, il faut expliquer, parce que là, j'ai bien écouté le député La République En Marche.
Jean-Baptiste Djebbari qui était avec nous il y a une minute.
Alors, mais je trouve qu'il y a un mépris des élites, mais c'est hallucinant, et d'autant plus que là, la grogne sur carburant, c'est, on va dire que c'est un peu la goutte d'essence qui a fait déborder le réservoir, mais c'était autre que chose que ça. C'est des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui travaillent parfois pour 900 euros par mois. Combien de députés de La République En Marche accepteraient de travailler pour 900 euros par mois et qui n'ont aucun avantage, qui doivent payer les études aux enfants? Et je voulais juste dire quelque chose, parce qu'on
vous en prie, Julien.
Transition énergétique, j'en ai encore pour 2 minutes. Là, on donne une aide.
Peut-être pas 2 minutes, mais peut-être 30 secondes, si vous pouvez.
Voilà, pour changer son aide au fioul. Mais jusqu'au mois de juin, le gouvernement donnait une aide pour acheter des pompes au fioul. Là, on a entendu des députés En Marche, c'était moi, qui disaient, oui, les personnes qui font du covoiturage avec Blablacar, il faut les taxer parce qu'elles gagnent de l'argent.
Oui.
Donc, il faut simplement un État qui ne sait pas gérer, qui pense trop, qui ne fait pas d'économie. Oui. Et donc, la classe moyenne, c'est celle qui se tait habituellement. Et bien là, cette classe moyenne,
aujourd'hui,
j'ai l'impression...
elle ne se tait pas. Voilà. Merci beaucoup,
tout
Julien. Je suis désolé, hein, il faut qu'on passe un petit peu tous les gens qui nous appellent et aussi nos invités qui se succèdent avec le Standard Europe 1, le 3921, ça c'est pour vous. Et nous sommes avec Éric Coquerel, député La France Insoumise. Bonjour monsieur le député.
Bonjour.
Alors on entend Julien qui nous appelait de Savoie, qui avait fait un petit peu les moins et les plus sur son bulletin de salaire, avec un petit peu de plus, mais surtout tous les moins qu'il y avait, les taxes qui avaient augmenté. Est-ce que la France Insoumise aujourd'hui a rejoint ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que vous étiez dans la rue avec un gilet jaune sur les épaules?
Alors moi, il se trouve que demain, je coordonne pour France Insoumise les rencontres nationales des quartiers populaires à Épinay, où on va beaucoup parler des inégalités. Donc j'étais un peu pris. Il n'y avait pas vraiment de rassemblement dans ma circonscription, mais de tout cœur, j'étais avec eux, oui, bien évidemment. Et pour les raisons que vient d'expliquer votre auditeur Julien.
Il y en avait 2000 en France, hein, donc il y avait de quoi faire, a priori, pour
oui,
en trouver
oui,
un.
Et d'ailleurs, il y a plein de députés de France Insoumise qui étaient sur les rassemblements.
Sur le fond, vous partagez leur colère?
Mais bien sûr, je la partage totalement, pour une bonne raison, c'est qu'il y a une catégorie de Français qui s'en sort très bien avec Emmanuel Macron, et c'est ça aussi qui est insupportable, c'est ce que j'appellerais les gilets dorés, c'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, 5% des Français qui ont eu 9 milliards de cadeaux fiscaux, qui sont avantagés par le gouvernement, qui espèrent que leur enrichissement va servir tout le pays. Bah, on voit bien que ce n'est pas le cas, et tout le monde pâtit, cotise en réalité pour ces quelques privilégiés. Donc entre les gilets jaunes et les gilets dorés, vous savez, moi j'ai vite choisi mon camp, c'est celui de ceux qui ne supportent plus aujourd'hui d'avoir à la fois des salaires qui régressent, ou en tout cas qui n'augmentent pas, ou des revenus, que ce soit ceux des artisans, de tous ceux qui manifestent aujourd'hui, et d'un autre côté d'avoir tout qui augmente, effectivement le carburant, et comme l'a dit votre auditeur, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le vase, parce que c'est aussi le gaz qui augmente, c'est aussi la CSG qui augmente, etc. etc. Et le gouvernement, manifestement, j'écoutais mon collègue d'En Marche, ne se rend pas compte qu'il est en train de développer une exaspération qui, peut-être pour la première fois, est en train de s'exprimer de manière inattendue dans le pays, mais je souhaite que ça continue parce que c'est pas supportable.
Les gilets dorés dont vous parlez, c'est votre expression, Éric Coquerel, le gouvernement qui a annoncé des mesures cette semaine pour notamment la prime à la conversion, donner 4000 euros aux ménages les plus modestes qui voudraient rendre leur vieille voiture pour en acheter d'occasion ou neuve, mais une qui soit un tout petit peu plus vertueuse, un peu moins polluante. Ces gilets dorés, comme vous les appelez, ils ont fait des gestes et surtout ils ne sont pas entièrement responsables de la hausse du carburant.
Les gilets dorés dont je parle, c'est les plus riches des actionnaires français auxquels le gouvernement a fait 9 milliards de cadeaux fiscaux en 2018, plus 9 milliards cette année, et je ne compte pas les aides de CICE aux entreprises sans aucune contrainte. Donc c'est ça les gilets dorés, c'est une politique en faveur des gilets dorés, et effectivement c'est sur le dos des gilets jaunes ou de tous ceux qui travaillent, qui payent leur carburant ou pas, mais qui pâtissent de la vie chère. Mais moi ce que je crois, c'est que vous savez, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, ça sent quand même le bricolage. C'est une prime qui existe déjà, qui est doublée. Il faudra quand même que les gens puissent mettre aussi la main à la poche pour compenser le reste à payer pour une voiture. Mais on voit bien que ça a été fait parce qu'il y a mobilisation. S'il n'y avait pas une mobilisation, tout ça n'aurait pas été accordé par le gouvernement. Et encore, c'est une goutte d'eau. Moi, vous savez, il y a 3 jours, j'étais à l'Assemblée nationale. On a parlé d'une prime qui s'appelle le crédit impôt transition énergétique. C'est pour justement permettre l'isolation thermique. Eh bien, on a demandé que ça soit une prime et non plus un crédit impôt qui nécessite un fonds préalable. Ce qui fait que les Français les moins favorisés ne peuvent pas évidemment en bénéficier. On doit refuser. Il faut attendre. Alors que quand il s'agit de supprimer l'ISF, là, il n'y a pas besoin d'attendre, c'est fait tout de suite. Donc c'est cette inégalité terrible que nous dénonçons et que j'ai remarqué aujourd'hui parce que nous sommes beaucoup, il y a beaucoup de militants qui sont avec les gilets jaunes parce qu'ils vivent la même situation qu'eux. C'est aussi ça qui est aujourd'hui contesté très largement dans le pays.
Merci beaucoup Éric Coquerel. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale d'Europe 1. On la continue. Elle continue cette édition spéciale jusqu'à 20h. Tout à l'heure avec Philippe Vandel, tous ses invités. Nous serons toujours avec des auditeurs qui peuvent nous appeler au 39-21. On était avec Janine, on était avec Jean, avec Louis, avec Jean-François. Continuez de nous appeler, continuez de nous envoyer des tweets, hashtag Europe 1. Dans un instant, on va faire un point assez global sur cette situation à 17h27, bientôt 17h30 sur Europe 1.
17h30, gilet jaune, gilet doré, avez-vous porté un gilet aujourd'hui? C'est la question. Édition spéciale sur Europe 1, on fait le point sur la situation, sur ce mouvement avec vous, François Geffrier, toute la rédaction d'Europe 1. Comment vivez-vous cette journée? Exaspération légitime, manifestation inutile, pour ou contre? Bref, exprimez-vous au 39-21, le standard d'Europe 1, ou encore sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et merci à tous d'être avec nous sur Europe 1. Bon courage, si vous êtes dans votre voiture, bloqué par des gilets jaunes, ou alors que vous êtes vous-même gilet jaune et que vous avez volontairement bloqué votre voiture quelque part pour exprimer votre colère. Nous sommes donc en édition spéciale ce soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vous. Marlène le disait, on attendait des chiffres plus récents que ceux de la mi-journée, les chiffres sur le nombre de le nombre de manifestants. On les a, ces chiffres, Marguerite Lefebvre.
Oui, tout dernier chiffre donné à l'instant par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. 244 000 manifestants sont descendus dans les rues aujourd'hui. C'est donc un chiffre actualisé en hausse. Un chiffre en hausse et plusieurs incidents qui nous ont été signalés ces dernières heures à Dijon. La manifestation manifestation qui rassemblait près de 6000 personnes a dégénéré. Les forces de l'ordre ont dû intervenir dans le centre-ville pour bloquer les manifestants les plus virulents. Le cortège a dû être dissous. À Quimper, un manifestant a volontairement percuté deux policiers. C'est une information donnée par la préfecture. Les deux fonctionnaires ont été blessés. Le conducteur a été interpellé. Et puis, à Paris, la situation se tend progressivement. Plusieurs centaines de manifestants se trouvent rue du Faubourg Saint-Honoré et tentent de se rapprocher au plus près du palais de l'Élysée. Des dizaines de CRS sont là pour les contenir. La situation est toujours en train d'évoluer. En tout, depuis ce matin, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 24 personnes ont été interpellées, 17 ont été placées en garde à vue. Une cinquantaine de personnes ont été blessées. Je vous rappelle qu'une manifestante a perdu la vie ce matin, fauchée par une automobiliste à Pont-de-Beauvoisin dans l'Isère. En ce qui concerne les blocages et les barrages filtrants, ils se poursuivent. C'est le cas notamment sur le périphérique de Toulouse, bloqué au niveau de la Roseraie. À Biarritz, les automobilistes sont à l'arrêt au péage de la Négresse, tout comme sur l'A8 au niveau de Fréjus, où l'autoroute est bloquée dans les deux sens. Enfin, à Paris, je vous parlais des manifestants près du palais de l'Élysée. Sachez que l'avenue des Champs-Élysées est bloquée, les voitures ont été évacuées. Et puis le périph' parisien est également touché. La circulation est ralentie par une opération escargot au niveau de la porte Maillot.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre. Effectivement, à mesure que la nuit tombe, on voit ces images. On est sur place avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos reporters. À Paris, la rue Royale, hein, entre la place de la Concorde, la place de la Madeleine, à quelques encablures de l'Élysée, elle est, je ne veux pas dire envahie, mais en tout cas, il y a des centaines de personnes qui s'y trouvent. Pas mal de CRS et puis pas mal de gilets jaunes. Et je répète cette information que nous donnait Marguerite Lefebvre, ce nouveau bilan, 244 000 personnes qui se sont mobilisées, qui ont enfilé un gilet jaune. J'aimerais qu'on discute un tout petit peu avec Denis, qui a 62 ans et qui est du côté d'Amiens. Bonjour, bonsoir Denis.
Bonsoir Europe 1.
Vous avez été un peu bloqué aujourd'hui ou pas ?
Oui, j'ai perdu du temps. Donc je voulais faire deux remarques. La première, c'est quand j'ai vu ces blocages, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de gens quand même très expérimentés, à côté d'un ensemble de gens qui regardaient, qui étaient des gens comme tout le monde.
C'est-à-dire des manifestants professionnels et d'autres qui étaient plus néophytes, des nouveaux manifestants.
Exactement. J'ai l'impression que ceux qui dirigeaient la manœuvre, en tout cas sur les ronds-points que j'ai vu bloqués, ils sont très expérimentés. Oui. Ils ont toutes les techniques de, par exemple, le barbecue ce midi, tout ça.
Vous avez tout prévu, quoi.
Oui, tout prévu. Très organisé.
Il faut dire qu'il faisait beau.
Oui. Mais secondo, c'est beaucoup plus sérieusement. Ce qui m'inquiète, c'est le sort de beaucoup de commerçants, parce que là, ma ville, aujourd'hui, c'est des villes mortes. On ne pouvait pas rentrer dans la ville. Donc, tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas circuler, donc les magasins vides. Et donc, il y a plein de gens indépendants, petits commerçants, des gens qui ont des salariés, qui ont eu leur journée vraiment sans chiffre d'affaires. Et ces gens-là, il y en a beaucoup. Il suffit de 1, 2, 3 jours sans chiffre pour pouvoir être très en difficulté en fin de mois. Pas de quoi payer le personnel, plus de quoi acheter les fournitures.
Bien sûr.
La banque qui refuse les traites, et ainsi de suite. Et ça peut aller très très vite.
Effectivement, Denis, vous avez raison. Comme tout blocage, comme toute grève, ce mouvement des gilets jaunes peut aussi avoir des conséquences néfastes. Merci Denis de nous avoir appelé. Merci en direct d'Amiens. Nous sommes avec Frédéric Dabi. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP, Institut de Sondage. Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes, vous l'avez, vous, en tant que sondeur, vous l'avez compris, vous l'avez dans vos radars, j'allais dire ?
Clairement, oui, puisqu'on est dans un contexte où il y a une crispation très forte des Français sur la question du pouvoir d'achat. C'est vraiment devenu la première préoccupation des Français. Et donc, dans ce cadre, les gilets jaunes, la question du carburant devient le révélateur de cette forte attente des Français. Mais c'est vrai que c'est un mouvement complètement inédit. C'est une sorte d'OSNI, d'objet social non identifié. Ce n'est pas un mouvement catégoriel, puisque tout le monde est concerné par la question de la hausse des prix du carburant. Dans une enquête IFOP réalisée cette semaine, on voit que 69% des Français se déclarent dépendants de leur voiture dans leur vie quotidienne. Donc on voit très bien qu'on n'est pas sur les mouvements classiques, traditionnels, canalisés par les partis politiques et des syndicats, et sur ce mouvement spontané qui prospère sur cette inquiétude très forte des Français sur la question du pouvoir d'achat en général et de son dynamiteur ou de son révélateur, à savoir la hausse sur cette dépense contrainte pour beaucoup de Français que représente le carburant.
Frédéric Dabi, si on devait faire une sorte de classification peut-être géographique, je ne sais pas si les termes sont bien choisis, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de rassemblements en province et en revanche pas tant de monde que ça à Paris, même si là actuellement il y a quelques échauffourées près de l'Élysée.
Oui, puisque c'est un la question du carburant se pose moins dans les grandes métropoles, moins à Paris que dans les métropoles d'une manière générale. On voit très bien qu'avec le maillage de transport, avec des multimodalités, avec toute une série de choses, les chauffeurs privés, les transports en commun en Ile-de-France, ce maillage si serré, la question de la voiture, la question du carburant joue nettement moins fort. On n'est pas sur une logique de dépenses contraintes comme lorsque l'on est dans une commune rurale. Dans l'enquête dont je vous parlais, je vous citais que du fait que 69% des Français se déclaraient dépendants de la voiture dans la vie quotidienne, dans les grandes villes, ça tombe à 45%. En commune rurale, ça atteint 88%. On n'est pas sur le même niveau de dépendance, et donc la crispation sur la question du carburant est nettement moins forte, même si il y a aussi une dimension de prétexte pour faire part de son mécontentement vis-à-vis de l'action du gouvernement.
Merci beaucoup Frédéric Dabi, merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur général adjoint de l'IFOP, Institut de Sondage. Merci. On continue cette édition spéciale dans deux minutes avec nos invités politiques, avec nos grandes voix. Nous serons avec Gilbert Collard. Vous continuez à nous appeler au 3921, le standard d'Europe 1. À tout de suite.
Il est exactement 17h40, suite de notre édition spéciale sur Europe 1 consacrée à cette mobilisation des Gilets jaunes. Avec vous François Geffrier, tous nos correspondants d'Europe 1, tous les reporters d'Europe 1. Ce mouvement a-t-il tendance à vous crisper, vous excéder ou au contraire êtes-vous solidaire? Comment vivez-vous cette journée? N'hésitez pas à réagir, composez le 3921, le standard d'Europe 1. Vous avez l'occasion de vous exprimer en direct à l'antenne. Vous pouvez aussi le faire sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et nous sommes donc dans cette édition spéciale jusqu'à 20h avec des invités, avec vous qui vous invitez sur le standard d'Europe 1 en 3921, ainsi qu'avec des invités politiques qui réagissent à ce qu'on voit, à ce qu'on entend depuis le début de la journée. Bonsoir Gilbert Collard.
Bonsoir.
Vous êtes député du Rassemblement National, député du Gard. Est-ce que vous avez revêtu votre gilet jaune dans le Gard aujourd'hui?
Oui. J'ai moralement revêtu mon gilet jaune.
Moralement, oui. Donc pas physiquement, vous ne l'avez pas vraiment mis?
Non, parce que je ne veux pas qu'on nous accuse de récupération. Mais il est clair que moralement, je porte mon élégance et c'est un gilet jaune, voilà.
Et c'est un gilet jaune que vous portez moralement, à quel titre? Pourquoi? Pour quelle raison?
Oh, parce que je suis solidaire de tous ces braves gens qui doivent appartenir à toutes sortes de familles politiques, hein, probablement différentes les unes des autres, mais qui ont en commun de ne plus supporter la pression fiscale, la taxation, la taille, la gabelle, les impôts, et une certaine manière de subir une sorte de mépris politique qui devient, quel que soit le parti politique auquel on appartient, et peut-être même, si on n'appartient à aucun parti politique, tout à fait insupportable. Je crois qu'on devrait faire un effort, les politiciens, les journalistes, un effort pour essayer de comprendre qu'on n'est plus dans la banalité des choses, hein, qui se passe souterrainement quelque chose de très nouveau, un mécontentement purement populaire qui peut nous concerner, les politiques, qui peut vous concerner vous aussi, hein, les gens de médias, toute une foule d'hommes et de femmes.
J'ai l'impression, en vous écoutant Gilbert Collard, que vous faites un reproche dans lequel vous vous incluez, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas bien et vous mettez un petit peu les hommes politiques et aussi les médias dans le lot.
Mais bien sûr.
Donc c'est pas juste une colère contre Emmanuel Macron pour vous?
Mais tout part de la colère contre Emmanuel Macron, bien évidemment. Il faudrait être absolument imbécile pour dire le contraire. C'est quand même lui le président de la République. C'est lui qui a taxé l'essence et le gasoil. C'est lui qui a démultiplié depuis qu'il est au pouvoir les taxes. C'est lui qui a aggravé la charge des impôts. La CSG chez lui.
Il a aussi réduit certains impôts sur les cotisations sociales, chômage, maladie.
Oui, il faudrait être complètement aveugle pour ne pas voir que c'est lui le responsable. Bon, les maires se plaignent, les foyers sont accablés par les impôts. Bon, mais en même temps, au-delà, est-ce qu'on est capable, nous, vous, de comprendre l'extraordinaire souffrance quotidienne, quoi, que subissent nos compatriotes sur toutes sortes de plans, du reste. Je crois pas qu'on soit capable de le comprendre. Je crois pas. On est les génies du commentaire, voyez.
Charles Villeneuve, qui est pas là pour commenter aussi, génie du commentaire sans doute, comme vous, Gilbert Collard, réagissez à ce que vous disiez.
Oui, non. Je disais que quand on dit c'est très nouveau, non. C'est pas très nouveau. D'abord, premièrement, ça fait un certain nombre d'années que la part de la richesse nationale prélevée en tant qu'impôt augmente sans cesse. Première chose. Deuxième chose, Ce qui est nouveau dans cette affaire, c'est évidemment l'amplificateur, le haut-parleur nouveau que sont les réseaux sociaux. Mais il y a une très longue tradition de résistance à l'impôt des Français dans l'histoire. On en est au 10e à peu près si on prend en ce qui concerne les impôts. Les coups de gueule citoyens, c'est caractéristique de l'opinion publique française. Mmh. Et ça a commencé en 1358. Alors, je peux vous énumérer tout le reste.
Oui, c'est tiré par la Fronde qui était...
C'est ça que je voulais dire, maître.
Michel Cotta.
C'est intéressant comme commentaire, mais c'est très facile. C'est très facile de dire ça parce que c'est visiter l'histoire à la sauce facile. Hein. La dernière manifestation populaire...
Je ne suis pas sûr que vous la connaissiez, mais enfin, c'est pas grave.
Elle date de quand?
Pardon?
La dernière manifestation populaire de cette ampleur, spontanée, échappant aux syndicats et aux partis politiques.
2013.
Les bonnets rouges, d'accord.
2013.
Avant les bonnets rouges, il y avait eu quoi?
Il y a eu les années 50 avec le poujadisme.
Ben voilà. Alors c'est
les années 30 avec les chemises vertes.
Voilà. Alors je crois qu'il faudra arrêter de constamment se rassurer. On peut remonter à la prise de la Bastille aussi, hein, pendant qu'on y est.
Oui, mais on peut d'ailleurs.
On peut remonter où on veut, mais non, on est dans le présent et j'aimerais qu'on tire un peu des enseignements sur le présent.
C'est une continuité. Et ce qui compte, c'est le présent. Bon, on peut remonter jusqu'à la Fronde pendant qu'on y est. Bon, mais ce qui compte, c'est l'intelligence historique du moment.
Oui, et cette intelligence historique, monsieur le député, vient spontanément du peuple, pas des partis politiques.
Spontané de ce mouvement et qui nous dépasse. Et alors, je veux dire, ce qui est extraordinaire, c'est de voir la volonté des commentateurs de se rassurer dans leur fauteuil moelleux en donnant une interprétation un peu scolaire, excusez-moi, des événements, parce qu'on est dans l'incapacité de savoir souterrainement ce que cela veut dire. Alors, vous n'avez pas tort, hein, dans votre analyse historique. Elle n'est pas fausse globalement, mais elle est comment pourrais-je dire, excessive sur le plan de l'interprétation, parce qu'elle l'invente. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une colère nouvelle qui échappe aux partis politiques. Poujade, je vous prie de m'excuser, mais il était encadré politiquement. Hein.
Merci.
Il ne faudrait quand même pas l'oublier.
Merci, Gilbert.
Ça aboutit à l'élection de députés aussi, le poujadisme. Ce qui n'est pas le cas dans ce mouvement.
Michel Cotta, une réaction à ce que dit Gilbert Collard.
C'est intéressant ce que dit. Je trouve ça très intéressant ce que dit Gilbert Collard, parce que évidemment, je le soupçonne de pensées non formulées, mais il a raison de dire que l'ensemble des partis politiques est confronté à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une mobilisation générale, mais c'est une mobilisation tout de même dont le gouvernement doit tenir compte. Mais il ne le dit pas qu'en fait ces mouvements populistes sont récupérés sans qu'il le demande même, sans qu'il le dise, il le dit pas là, par le Front National et par le Mouvement National. Voilà, vous n'avez pas besoin au fond de dire que vous récupérez pour récupérer. Vous êtes un grand avocat.
On va faire, je suis désolé, on doit s'arrêter là.
C'est un peu vrai, mais là
Gilbert Collard, vous avez beaucoup la parole en comparaison. Voilà, Gilbert Collard, vous avez beaucoup la parole en comparaison aux autres invités. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour Europe 1 en direct. On continue la conversation avec les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta et Charles Villeneuve dans un instant. À tout de suite.
17h50, Europe 1 en édition spéciale jusqu'à 20h. Nous sommes avec François Geffrier pour quelques minutes encore. Philippe Vandel prendra le relais. Et on va continuer à parler des gilets jaunes, de ce mouvement. Alors c'est vrai que la journée touche à sa fin, j'allais dire. Vous pouvez nous appeler au 3921 pour nous dire comment vous avez vécu cette journée. 50 centimes d'euros la minute. Et puis avec le hashtag Europe 1 sur Twitter, bien évidemment.
Effectivement, Marlène, Europe 1 a cassé son antenne aujourd'hui car les gilets jaunes, quelque part, ont cassé les codes, ont cassé la baraque avec leur mobilisation en 2000 points de rassemblement différents partout en France. Je redonne ce chiffre hein, qu'on apprenait tout à l'heure à 17h30 ensemble. 244 000 personnes qui se sont mobilisées aujourd'hui partout en France. On les voit encore, la nuit est tombée sur Paris comme sur le reste de la France et on voit qu'il y a toujours des gens du côté de la place de la Concorde, du côté de la rue Royale à quelques centaines de mètres de l'Elysée. Avant de finir la conversation avec Michel Cotta et Charles Villeneuve, on va écouter Delphine qui est avec nous au téléphone, qui nous a appelé au 3921. Bonsoir Delphine.
Bonsoir monsieur.
Alors vous êtes à Albi, c'est ça?
Oui.
Et vous n'êtes pas gilet jaune, vous ne l'avez pas mis, mais vous les comprenez très bien ces gilets jaunes.
Alors je comprends les gilets jaunes, je comprends les gens qui souffrent, hein. Je connais des gens qui souffrent et qui avec un petit salaire rencontrent des difficultés. Mais je trouvais quand même qu'il y avait une forme d'indécence dans cette manifestation. En France, il faut quand même se rendre compte qu'on bénéficie de choses considérables, alors pour les citer, hein, la sécurité sociale, l'assurance chômage, les allocations familiales, les aides pour la rentrée, les APL, les bourses, et j'en passe, la police, la justice, etc. Ouais. Moi, je travaille en école, hein. Aujourd'hui, l'école, elle est gratuite, vous avez du mal à payer la cantine, on vous aide. On vit dans un pays, on a beaucoup de chance de vivre en France. Et je crois que tout ça, c'est de l'acquis, c'est devenu normal pour beaucoup de gens, et on l'oublie.
Et donc, effectivement, dans ce pays, il ne faut pas oublier que dans la colonne des plus, il y a aussi toutes ces aides qui, elles, ne bougent pas, n'augmentent pas, mais qui existent et qui sont bel et bien là. Merci beaucoup, Delphine. Merci de nous avoir appelé ce soir. On va continuer à parler avec vous, hein, jusqu'à 20h avec les grandes voix, avec Philippe Bandel qui sera là dans 8 minutes. Michel Cotta, quel est un peu le bilan de cette journée? Alors, un bilan politique, ce sera difficile à dire. On va voir si l'exécutif prend la parole dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, il y a cette mobilisation. Elle est implacablement, elle a existé aujourd'hui, elle est forte.
Elle a existé aujourd'hui, elle est moins forte que ce que l'on pensait, pour ma part.
240 000
qu'elle serait,
personnes.
Oui, enfin, on connaît des manifestations à Paris de 500 000 personnes, donc c'est 242 000 personnes dans l'ensemble de la France. Alors, discutons pas trop des chiffres, parce que ça, ils peuvent être contestés. Mais ce qu'on voit, c'est que ça n'est pas une action, ça n'est pas un soulèvement. Ouais, ce n'est pas un soulèvement populaire, c'est un mouvement populaire dont le gouvernement sera bien obligé de tenir compte, même s'il conteste le nombre des gens. Donc ça, c'est sûr. Mais deuxième point, ce qu'on voit, c'est que la taxe écologique, elle a été raccrochée en quelque sorte au baril de pétrole. Alors, on sait que ce baril était déjà en train d'augmenter. Donc, cette taxe n'a pas été comprise par les gens. Ils n'ont pas été comprise parce que au moment où l'essence augmentait spontanément,
en plus il y avait
cette
taxe.
Cette taxe. Mais dernière interrogation quand même. Moi, j'entends pas beaucoup les écologistes défendre le gouvernement. J'entends pas beaucoup les écologistes défendre la taxe écologique. Même Ségolène Royal, qui avait été à son origine, a dit que c'était pas bien. Alors, on a entendu ce matin Daniel Cohn-Bendit dire. La taxe écologique est nécessaire, mais enfin, le silence des écologistes aujourd'hui, je le trouve assourdissant.
Silence assourdissant des écologistes. Politiquement, Charles Villeneuve, vous avez cette même lecture, c'est-à-dire qu'on va attendre de voir ce que le gouvernement fait, il a déjà fait des annonces. Le reste, il y a un petit peu de récupération, extrême droite, extrême gauche, et les écologistes, on les entend pas beaucoup.
Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et pourtant, le révélateur de cette manifestation spontanée, c'est évidemment la taxe sur les carburants. C'est un révélateur. Ce n'est pas suffisant pour expliquer le mouvement dans son intégralité. Mais je suis un peu plus nuancé que Michel Cotta sur les 244 000 manifestants. C'est pas mal. C'est quand même un chiffre dont le président de la République et le chef du gouvernement devront tenir compte.
Ah ben ça, parce que c'est, aussi, pardon,
si
je compte,
dire,
sûrement.
Oui, c'est l'essence même du macronisme qui est en question sur
et
ce plan-là.
Le nombre de points de rassemblement, 2000 points de rassemblement, même si effectivement le pays n'a pas été paralysé. Aucun axe stratégique, des trains, des autoroutes.
Non. Mais le Premier ministre l'avait dit, manifestation, oui, spontanée, oui, blocage, non. Bon, sur ce plan-là, c'est vrai que heureusement, on a eu quand même un accrochage qui a provoqué la mort d'une personne. Et il y a aussi 3 blessés très sérieux. Mais il ne faut pas les oublier. Mais deuxième enseignement, c'est que la question du carburant se pose moins dans les grandes villes. Comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Et n'oublions pas que 69% des Français ont de la sympathie pour ce mouvement. C'est ce que révèle justement le sondage de l'IFOP. Ça aussi, l'exécutif devra en tenir compte. Donc, question du carburant se pose moins dans les grandes villes que dans les villes moyennes et le monde rural. Et là aussi, quand même, il y a une écoute approfondie à avoir. Et d'ailleurs, je rappellerai que le ministère de l'Intérieur a été en quelque sorte divisé en deux, puisque les territoires, notamment la direction des collectivités, des collectivités locales, a été décentralisée en quelque sorte du ministère de l'Intérieur vers Jacqueline Mouron.
Merci beaucoup, merci pour ces analyses politiques à chaud, Charles Villeneuve et Michel Cotta. L'édition spéciale d'Europe 1 continue, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h. On parlait des écologistes qui n'étaient pas très présents, qui étaient un peu muets aujourd'hui. On en a invité un qui sera en longueur demain, qui aura l'occasion de s'exprimer sur Europe 1. C'est François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Il est l'invité du grand rendez-vous. C'est de 10h à 11h tous les dimanches matin. Vous connaissez le rendez-vous et c'est avec notre ami de la politique, Hélène Jouan, qui est l'invité, qui dirige ce grand rendez-vous avec nos amis des Échos et de CNews. Restez à l'écoute d'Europe 1. L'édition spéciale continue jusqu'à 20h. À tout de suite.